bon, le culte et le navrant.
Survivre à une guerre peut devenir la guerre.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Je t'aime.
Je sais.
On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul.
Il nous faudrait un plus gros bateau, non?
Un tout petit cuisinier.
Appelez-moi Plisken.
J'ai gagné.
Nom de Dieu.
Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Salut Carlito.
Salut Tom. Alors, ces vacances, c'était pas mal?
Oh ouais, franchement, c'était chouette, tu sais, la mer, le soleil, la plage.
Ah, la baignade et tout ça.
La baignade. Tu ouais. Parles de baignade, moi je ne me baigne jamais.
Ah bon? Mais pourquoi?
Mais parce que moi, sur la plage, je suis en mode Martin Brody, tu vois, je suis en mode David Hasselhoff. Moi, je surveille, je baywatch, mais jamais je mets un pied dans l'eau.
Oh, mais pourtant, la mer, les vagues, les embruns, l'air chargé d'iode. La houle, le doux clapotis des vagues ou leur puissance déchaînée, c'est beau, c'est poétique, ça a quelque chose de magique tout de même, et puis on se sent tout petit.
Ouais, enfin, il y a un autre truc qui nous fait sentir tout petit, tu vois, c'est ouais. Un animal à sang froid, une silhouette fuselée hydrodynamique, tu vois où je veux en venir, une peau rugueuse et épaisse comme une armure, 5 à 7 pentes brachiales, de 190 à 1014 dents disposées sur plusieurs rangées et qui se renouvellent toute sa vie, une première épide dorsale caractéristique de l'espèce et qui a foutu la trouille à des générations de vacanciers. Moi, je ne mets plus l'épide dans l'eau depuis 1975, Karl.
Bref, pas la peine de vous faire un dessin, ce dont on vous parle, c'est...
Et on en a une belle brochette pour cet épisode des requins. Enfin, des brochettes, c'est surtout eux qui vont en faire avec tous les imprudents qui mettent ne serait-ce qu'un petit doigt de pied dans l'eau. Ça va festoyer au large de la côte est des États-Unis, près de l'Australie, aux Bahamas, au Canada. Et ce qu'il y a de bien, c'est que cette petite bébête n'est pas bégueule.
Elle dévore même absolument tout ce qui passe à sa portée de ses connottes. De la jolie blonde, de la belle brune, du beau surfeur, du vieux pêcheur, même de l'océanologue, de la biologiste marine, du capitaine buriné par le temps, du policier, du contrebandier. Bref, tout ce qui passe à sa portée. Et nous, c'est pas qu'on soit des gens méchants, vous voyez, mais on se régale quand ça cisaille.
Alors, avant de se lancer dans cet épisode un peu hors norme, on voulait vous faire part quand même de nos états d'âme. Parce que des films de requins, il y en a beaucoup trop, clairement, et on a failli devenir fou en faisant la sélection. Alors, on a d'abord évacué les requins folklorico-fantastiques, les Sharknado, les Ice Shark, les Sand Shark et autres Franken Shark, se disant qu'on ferait un épisode dédié pour eux un peu plus tard.
Et vous savez quoi? Eh ben malgré ça, c'était pas suffisant. On a dû se résoudre à encore en couper dans la sélection. Alors, adieu les Jaws 2, adieu les Open Water, adieu les 47 Meters Down. Et on a dû shorter au max les Peurs Bleues et la Mort au Large. Et malgré tout ça, on se retrouve quand même à vous présenter aujourd'hui une dizaine de films.
Alors vous aurez le droit de critiquer notre sélection et même de vous déchaîner, de vous écharper sur notre compte Instagram ou notre page Facebook. Mais sachez que nous aussi, on s'est déchiré pour la sélection, on s'est écharpé et qu'on a fait de notre mieux.
Bah oui!
Alors, pour commencer, on se retrouve avec notre première rubrique habituelle, autour du culte, et évidemment, vous vous en doutez, on va commencer par Jaws.
Autour du culte.
Il n'a peur, Rustique.
Alors Carlito, on commence par le pitch.
Alors, je vais peut-être pas vous raconter l'histoire, vous résumer l'histoire des dents de la mer, parce que je pense que vous la connaissez, mais en gros... c'est une recette extrêmement efficace, hein. Vous prenez un chef de la police qui déteste l'eau et qui décide de prendre son poste, un nouveau poste sur une île, un maire avide et cupide qui veut absolument tirer le maximum de profit de sa station balnéaire, un scientifique qui étudie les requins, un capitaine qui les collectionne, des baigneurs insouciants évidemment qui veulent s'amuser et profiter de l'été ensoleillé, et un requin qui a salement la dalle. Vous mélangez tout ça au shaker et vous servez le tout arrosé d'une bonne dose d'hémoglobine. Voilà, vous avez les dents de la mer. Ce film est d'une efficacité redoutable. Il nous dépeint une petite bourgade sans histoire où la vie s'écoule paisiblement et qui va se retrouver confrontée à une situation terrifiante à laquelle nul n'est préparé. Car ce requin, il va falloir s'en débarrasser et ce ne sera pas une partie de plaisir.
Alors Jaws, c'est un film de Steven Spielberg qui le réalise à 26 ans.
Encore lui ?
Encore lui, et Steven Spielberg, c'était son troisième film, puisqu'il avait réalisé Duel et juste avant Sugarland Express, donc il est au début de sa carrière, il n'a pas encore explosé. Et donc, il décide de réaliser en 1974 ce film qui sortira sur les écrans en 1975 et qui s'appelle Jaws, donc titré Les Dents de la Mer en français, et qui est l'adaptation d'un bouquin du même titre de Peter Benchley. C'est interprété par Roy Scheider, hein, qui avait déjà joué dans French Connection, dans Marathon Man, qui a joué après dans Tonnerre de Feu, qu'on retrouve d'ailleurs dans une série des années 90 dans l'eau Sequest.
Et il a joué dans 2010 aussi.
Bien sûr, la suite de 2001, contact, tout à fait, l'année du premier contact. On retrouve aussi Richard Dreyfuss, qui tournera beaucoup avec Spielberg d'ailleurs, puisque il a joué dans Rencontre du troisième type. Il jouera plus tard dans Always. Donc c'est un acteur qu'on aime bien, qui a joué dans pas mal de.
Ouais, il a joué dans Vacances à la Grecque, Le Clochard de Beverly Hills et Piranha 3D aussi. Hein. Il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre.
C'est vrai. Richard Dreyfuss, on peut dire qu'après Always, on commence à un petit peu moins parler de lui parce qu'Always n'aura pas marché comme il devait. Les Dents de la Mer, c'est aussi joué par Robert Shaw. Et Robert Shaw, c'est même la tête d'affiche du film, on peut le dire à l'époque.
Exactement. Mais on en discutera parce que pourquoi il se retrouve en tête d'affiche et pourquoi il n'y a pas plus de vedettes que ça au générique.
Robert Shaw, il avait joué précédemment dans Bon Baiser de Russie, il jouait souvent des rôles de méchants, il avait joué dans L'Arnaque.
Ouais, puis il avait joué dans pas mal de films de guerre aussi, genre Les Canons de Navarone, il a joué dans L'Arnaque effectivement, il avait joué il avait déjà tourné un film de requin en 58. Voilà, j'ai trouvé ça dans ce film. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo, il s'est déjà fait bouffer deux fois.
Donc Robert Shaw, c'est un comédien, en tous les cas, sur lequel on peut monter un film, voilà, sur son nom, et ce sera sur lui que reposera le casting de Jaws.
Mais alors, justement, moi, j'ai lu, hein, plus exactement, parce que j'ai lu deux, trois trucs pour te...
T'es documenté un petit peu.
Un tout petit peu. Et justement, j'ai lu qu'il y avait eu des tensions entre Spielberg et le producteur, parce que le producteur voulait imposer quand même de la grosse vedette. Hein. Il y a eu, je crois, pas mal de vedettes qui ont été proposées, comme Charlton Heston, Paul Newman, etc. Mais Spielberg ne voulait pas, parce que en fait, il préférait prendre des gens beaucoup moins connus pour tout simplement qu'on ne puisse pas prédire qui allait survivre.
Et oui, ça c'est une vraie force, puisqu'il y a des films de requins plus récents dans lesquels on a des grosses têtes d'affiche, et donc forcément une tête d'affiche, on sait à de très rares exceptions qu'elle ne va pas mourir, donc il y a moins de suspense. Donc c'est un choix super intéressant qu'a fait Spielberg à l'époque.
Tout à fait.
Alors, ce film, il est d'un budget de 4 millions de dollars au début du tournage, puis pour plein de raisons qu'on vous expliquera sûrement rapidement tout à l'heure, il passe à 9 millions de dollars, donc il explose complètement le budget, ce qui n'est pas très grave, parce qu'une fois que le film sort sur les écrans, c'est un carton planétaire, 260 millions de recettes aux États-Unis, 210 millions de recettes en plus dans le monde. Voilà, donc ce qu'on dit souvent des Dents de la Mer, c'est que ça lance le film d'été, le blockbuster, film d'action. Voilà, et il aura changé la face du cinéma aussi pour ça, parce qu'à partir de là, on commence à produire des très 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 gros films avec de gros budgets dans l'espoir que ça explose le box-office. Alors, tu nous as brillamment récapitulé l'histoire de ce film, mais qu'est-ce qui en fait vraiment un film d'exception ? Alors, plein de choses évidemment, et moi j'ai envie de commencer, Carlito, tout simplement en citant quelque chose que j'ai trouvé très juste et que j'ai lu. Alors, je peux citer la source dans Rokirama, il y a quelques temps.
C'est une belle source, tu peux la citer, ouais.
C'est une belle source. Et je trouvais, et je trouve l'emprunt très judicieux, c'est que Rokirama nous dit, quelque part, les dents de la mer, c'est la somme de toutes les peurs. Et c'est vrai que c'est la somme de toutes les peurs, dans la mesure où, si vous avez peur des poissons et que vous êtes toxicophobique, si vous avez la peur des océans, thalassophobique, si vous avez la peur des profondeurs, bateauphobique, eh bien, les dents de la mer, ça réunit
ça vous fait claquer direct,
ces peurs-là. Et c'est là que c'est fort. C'est que on est en détresse totale quand on voit les dents de la mer, parce que on est dans un environnement hostile. On ne maîtrise pas. On est dans toutes ces situations où on perd le contrôle total parce qu'on va être dans l'eau, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a sous nos pieds, parce qu'on sait que quelque chose rôde. On n'est pas dans notre élément. Et ça, il en joue super bien, Spielberg.
Et puis surtout, on sait que ce quelque chose qui rôde est quand même beaucoup, beaucoup plus gros et plus dangereux que nous. Et c'est aussi ça, les films de requins, c'est que ça nous remet plutôt en bas de l'échelle de la pyramide alimentaire. Hein. C'est pas nous qui sommes en haut, cette fois-ci, quand on est dans l'eau. C'est lui.
C'est clair que le film ne met pas en scène un caniche.
Ah là !
Alors, qu'est-ce qui rend ce film... Alors, au-delà de l'histoire, au-delà de ce qu'on vient de dire, il y a plein de choses qui rendent ce film remarquable. Moi, je trouve qu'on peut peut-être commencer d'abord par parler des personnages.
Oui.
Le requin est un personnage à part entière. clairement, c'est même tout sûrement le héros de l'histoire. Mais les trois personnages principaux ont vraiment un intérêt, ils sont vraiment très bien caractérisés.
Ils sont assez archétypaux même.
Très archétypaux, mais on a envie du coup de savoir ce qui va leur arriver. On s'attache à eux parce que Spielberg prend le temps quand même de les mettre en scène. Il y a quand même ce shérif qui arrive sur une île et qui est aquaphobe.
Ouais, c'est génial. Quand même. Ça en fait une faille immédiate, c'est une faiblesse tout de suite. Alors c'est le représentant de la loi et de l'ordre, il se doit de montrer un petit peu de force et en fait, il est sur une île et dès qu'il met le pied sur l'eau, il est flippé total.
Il est dans la paralysie totale et on sait que forcément ça va être face à lui qui va devoir lutter aussi pendant tout le film à cause de ça. Le deuxième personnage un peu emblématique, c'est Hooper, l'océanologue, et lui il est intéressant aussi parce qu'on sent quand même, on le comprend, il vient d'une famille assez huppée hein, et Quint lui rappelle tout le temps, et on sent qu'il a besoin de prouver quelque part pendant tout le film que c'est quelqu'un qui mérite finalement son titre de scientifique, et il est intéressant pour ça aussi ce personnage là.
Et puis... c'est ce que tu dis, c'est qu'il a des choses à prouver, quoi. Et effectivement, il est plutôt assez attachant, justement, dans sa façon d'être. Ouais. Il est assez détaché aussi de tout. Il se fout un peu de tout. Il est très second degré. On le sent un peu railleur, un peu goguenard. Mais ça en fait un personnage assez rigolo.
Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a une petite différence entre Hooper dans le film et Hooper dans le livre, puisque dans le livre, Hooper a une histoire d'amour avec la femme de Brody. Parce qu'on n'est pas du tout dans le film.
Oh non, quand même, merde, pas et, Madame Brody.
Eh ben si, quand même. Oh non. Hélène Brody qui succombe au charme de l'océanologue. Et ça, c'est pas dans le film. Mais du coup, en fait, les personnages, on sent, s'apprécient dans le film. Ils sont proches. Même d'ailleurs, Brody, Hooper et Quint finissent par s'apprécier quelque part.
Alors que dans la vraie vie, hein, je pense que tu le sais... Hooper et Quint, c'était pas tout à fait ça. Hein.
Non, c'était pas tout à fait ça. Tu vas peut-être pouvoir nous en dire quelques petits mots en plus. Le tournage était un peu compliqué pour ça aussi, d'ailleurs. Alors, le troisième personnage, c'est Quint. Donc, Robert Shaw, on en a parlé tout à l'heure. C'est le marin buriné, le marin à qui on la raconte plus.
Le vieux baroudeur.
Et ce qui est intéressant avec lui, c'est que lui aussi, il a un vrai trauma hein, qui fait qu'il a quelques dents, si je peux le dire, contre les requins.
ça va être dur cet épisode.
Moi, je fais de la blague tout le temps.
Ça va être dur.
Toujours haut de gamme. Et donc, il a une dent contre les requins puisqu'il faisait partie de l'équipage de l'USS Indianapolis. Alors ça, c'est une histoire vraie.
C'est une histoire vraie. Mais d'ailleurs, il y en a plusieurs dans ce podcast parce que il y en a eu une ou deux autres qu'on verra plus tard.
On dira ça tout à l'heure. Et donc, l'USS Indianapolis qui, pour la petite histoire, la grande histoire, même puisque c'est lui qui livre la bombache sur les côtes du Japon, et cette bombe sera larguée plus tard sur Hiroshima et par la suite sur Nagasaki. Et donc c'est quand l'USS Indianapolis revient de cette mission complètement secrète, hein, donc personne n'était au courant qu'Indianapolis se trouvait dans ces eaux-là, il se trouve qu'il fait naufrage. Et en faisant naufrage, du coup, tous les militaires se retrouvent à l'eau et effectivement se font décimer les uns après les autres parce qu'attaqués par des requins, et c'est ce que Quint nous raconte dans cette fameuse scène des gens de la mer mythique, où les trois personnages se retrouvent en train de discuter dans la soute.
Mais c'est vrai que ils avaient quand même beaucoup de mal, Quint et Hooper, à se piffrer, hein. Enfin, Quint et Hooper, vous m'avez compris, hein, évidemment, Robert Shaw et Richard Dreyfuss. Et il semblerait que certaines des scènes où ils s'insultent copieusement soit à peine joué. En fait, il pouvait pas se blairer et il paraît que effectivement Robert Shaw passait son temps à insulter Richard Dreyfuss hors caméra.
Et c'est là qu'on voit le talent de grands acteurs, hein. C'est que on le voit pas ça pendant le film. On sent qu'il y a un antagonisme entre ils s'aiment pas ces deux personnages là, mais ils finissent par s'apprécier pour le coup. Ils évoluent un peu là-dessus.
Et en termes de mécanique aussi, ce qui fait l'intérêt de ce film, c'est bien sûr, il y a un moment où sinon c'est pas drôle. C'est-à-dire que si vous voyez un requin et vous dites qu'il y a un requin et on ferme les plages, il y a plus d'action. Donc le ressort dramatique, le nœud, il est là, hein. C'est effectivement le maire qui veut sauver sa station balnéaire, qui veut absolument que tout le monde aille se baigner et qui fait pression sur le shérif pour que tout reste ouvert. Et donc évidemment les morts s'enchaînent.
Ça, c'est vrai que c'est une force dans l'écriture des Dents de la Mer, c'est que le matériau de base dans les films de requins, il est quand même assez mince puisqu'on a un requin qui attaque des gens, qui les mange. Mais là, il y a quand même cette histoire écrite, donc les personnages, mais aussi le contexte avec, comme tu le dis, le maire qui fait qu'il veut à tout prix faire sa fête estivale, donc il ferme pas la plage. Donc évidemment, ça crée un enjeu supplémentaire puisqu'on sait que ce requin va avoir de quoi bouffer si le maire fait ce qu'il a en tête. Donc ça construit une histoire un peu solide au-delà du seul prédateur qui bouffe tout le monde, ce qui est le tort de beaucoup de films dont on parlera plus tard, puisque à un moment donné, beaucoup ne s'intéressent pas aux personnages et beaucoup ont des histoires inexistantes, là où Les Dents de la Mer essaient de construire quelque chose. La deuxième ou troisième chose remarquable sur Les Dents de la Mer, bah, finalement, c'est la réalisation de Steven Spielberg. Mais cette réalisation, elle a été finalement, elle n'est pas le fruit du hasard, bien entendu, parce que Spielberg est un réal de qualité, mais il y a un contexte qui fait que le tournage a été extrêmement difficile, et que ce tournage extrêmement difficile l'a obligé à trouver quand même un certain nombre d'artifices pour que ce requin, on le voit beaucoup moins que ce qu'il avait en tête, puisque normalement, le requin était censé être beaucoup plus vu dans le film. Il se trouve que Spielberg a voulu tourner en pleine mer, donc dans de l'eau salée, et qu'à l'époque, effectivement, il n'y a pas d'image de synthèse, donc le requin, il faut le construire et faire un vrai requin de 7 mètres, puisqu'il fait 7 mètres dans le film. Et ça, ça a été très, très, très compliqué. Ils ont fait appel à Bob Maté, qui était l'artisan qui avait fait le calamar géant, tu sais, dans le milieu de la mer.
Oui, tout à fait.
Et donc, le type a mis une équipe de 7 personnes là-dessus pour construire les requins, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a 3 requins différents. Un qui était sur un bras articulé pour les plans où on le voit un peu de haut, un autre qui faisait du droite à gauche, et un autre de gauche à droite. Et en sachant que ces 3 requins étaient tous ouverts du côté qu'on voyait pas, en fait, à l'écran. Ce qui fait que l'eau rentrait dedans et que du coup, bah, les requins, ils ont pas arrêté de se planter pendant tout le tournage. Et ils se sont tellement plantés que du coup, ça a obligé Spielberg à faire qu'on ne le voit pas tant que ça, le requin. Et ça fait partie des forces du film. C'est qu'il est suggéré, mais c'est une menace qui plane, qu'on voit plutôt dans la deuxième partie du film. Et moi, là-dessus, je retiens les barils, voilà, les barils jaunes.
Ça, c'est génial.
C'est quand même une trouvaille incroyable.
Ouais. Je ne sais pas si c'est une trouvaille d'ailleurs, hein, parce que je n'ai pas beaucoup de pêcheurs dans ma famille, mais je ne sais pas. Peut-être que ça se pratiquait à cette époque-là sur le gros, hein, sur la pêche au gros. Peut-être que c'est comme ça, j'en sais rien.
Je crois que ça se pratique, ouais. Je crois que ça se pratique. Et c'est vrai que là où c'est très fort, bah, c'est qu'ils plantent le baril donc dans le requin, mais c'est pas le requin qu'on voit. Du coup, c'est les barils et on sent. Et en plus, ça donne une puissance au requin. On se dit, mais un baril, deux barils, trois barils. Et le requin, il continue à plonger, quoi. Voilà. Et là, on se dit que vraiment, il va avoir besoin d'un plus gros bateau.
Exactement. Bah, d'ailleurs, on vous passe tout de suite ce petit extrait.
Il nous faudrait un plus gros bateau.
Une autre chose quand même fantastique, mais comme c'est souvent le cas, un grand film n'est pas un grand film sans une grande musique, et là, évidemment, hein, la musique de John Williams, pour le coup, il ne s'est pas vraiment foulé, hein, il y a 2 notes.
C'est vrai.
Mais quelle note ? Ça suffit, voilà. Ça suffit en fait, ça cadre parfaitement bien avec l'environnement sous-marin, le fait qu'on soit parfois en vue subjective, parfois on est en vue de face, mais on ne sait pas en fait ce qui se passe puisque c'est trouble, et donc on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus, et ces notes font monter l'angoisse à un niveau encore supérieur, donc ça c'est quand même une énorme réussite, voilà. Et d'ailleurs ça a été un des 3 Oscars obtenus par le film, meilleure musique, il y a eu meilleur montage et meilleur son.
C'est vrai que si tu retires cette musique caractéristique des Dents de la Mer, le film ne se voit pas de la même manière. Ça fait vraiment partie inhérente de la réussite du film, cette ambiance sonore que John Williams a réussi à créer. On le disait, les conditions ont fait que Spielberg a dû trouver des trésors d'ingéniosité, mais ça s'est répercuté aussi sur certains personnages.
Ouais.
Parce que je sais pas si tu sais que Hooper, pour reparler de lui, pareil dans le bouquin, Hooper meurt.
Ah, je savais pas.
Et dans le film, pourquoi il ne meurt pas ? Parce que alors ça, c'est assez marrant, c'est que il y a cette fameuse scène dans la cage où Hooper finit par s'échapper de la cage. Et en fait, à l'origine, ce que voulait faire Spielberg, c'est qu'il avait casté un acteur très petit, qu'il a mis dans cette cage, et pour qu'un requin passe autour de la cage, et que du coup, par rapport à la taille de l'acteur, le requin paraisse immense. Et ils ont pris un acteur de petite taille, ils l'ont mis dans la cage, mais quand le premier requin s'est pointé, le type a failli en mourir de peur, Et donc, il est sorti de la cage, il a fait un malaise, etc. Et le requin a à moitié, donc ils ont
lui
des
aussi plans, a fait voilà, un malaise.
C'est ça. Le requin s'est dit, merde, il n'y a plus rien à bouffer, donc il s'en est pris à la cage. Et donc, les plans qu'on voit avec la cage qui se démonte, ça, ils les ont vraiment tournés. Ah mais oui. Du coup, il n'y avait plus personne dedans. Et c'est là qu'ils se sont dit, bon, bah, du coup, Hooper, il va pas être bouffé. Il va aller se cacher, quoi. Et c'est comme ça que le personnage de Dreyfus se retrouve vivant à la fin du film.
Par contre, évidemment, Quint, lui, il se fait bouffer, mais en même temps, c'est un peu normal, hein. C'est une fin logique, parce que on peut quand même le dire, ce personnage-là, c'est quand même, il est très 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 directement inspiré du capitaine Ahab dans
oui.
Dans Moby Dick. Dans la scène de Melville, ouais, dans le livre de Herman Melville, Moby Dick, hein. Très. D'ailleurs, il est lui obsessionnel de tous les requins. Hein. Il n'a pas un requin qui suit et qui poursuit et qui traque. Mais en revanche, son obsession, c'est ça.
Ah oui, ouais,
et
ouais.
Il tue tout ce qui porte un aileron et qui passe à portée de son harpon.
Ah bah, il a un trauma, hein, voilà. Depuis le naufrage de son bateau, dont on parlait exactement. Tout à l'heure, il est traumatisé par les requins, il les traque, ouais. il veut les tuer. D'ailleurs, c'est le seul volontaire.
Ah bah oui, il est au taquet sur le requin, et le parallèle était peut-être d'ailleurs trop évident, parce qu'il y a eu une scène de coupé. En fait, où on le voyait justement lui en train de regarder à la télévision l'adaptation cinéma de Moby Dick. Voilà,
ils ont coupé. Ils se sont dit peut-être ça
un peu trop appuyé.
Ouais, peut-être appuyé un petit peu trop.
Et je crois aussi que c'est John Huston qui voulait pas en fait que.
Qu'on voit son film.
Ouais. Ah, bah. On voit son film, c'est quand même.
Bah oui, mais parce que j'imagine qu'à l'époque le petit Spielberg, ça parlait pas trop de John Huston.
Ouais. Hein,
voilà. Et donc il a peut-être pas forcément envie qu'on retrouve son œuvre magistrale dans un film qui peut-être était une vulgaire série B. Bon bah dommage pour lui, ça aurait fait de la pub
ouais, pour son exactement. Film. Exactement. Et ah oui, et puis justement ce que tu disais effectivement sur les conditions de tournage, ça a aussi occasionné beaucoup de retard, et donc il y a eu énormément de scènes en fait. Où les acteurs étaient en impro.
Ah oui.
Parce qu'ils avaient la plupart du temps leur script la veille pour le lendemain, voire même au moment où ils étaient sur le set en train de tourner, et du coup, ils improvisaient. Il y a plein de répliques comme ça, comme il va me falloir un plus gros bateau, par exemple, où c'est Roy Scheider qui sort ça parce qu'il ne savait plus son texte, en fait.
Et comme quoi, et pourtant, c'est devenu une des répliques les plus cultes du cinéma, cette réplique.
Exactement.
Je pense que tout le monde la connaît, enfin, beaucoup ouais. de gens la connaissent. Et quand on pense que ça a été improvisé, c'est quand même fascinant. Ce manque de moyens, il a aussi été à l'origine du tournage de scènes après le tournage.
Oui.
Une des plus connues, c'est celle où il retrouve la tête du pêcheur là qui a disparu. Bon, celle-ci, Spielberg l'a tournée après la fin du tournage. Il l'a rajoutée en se disant tiens, on va rajouter un petit élément de ce type. Une scène qui n'aurait pas dû être tournée et qui pourtant, hein, voilà.
Ah bah si elle mène, elle fonctionne bien. Bon, elle te fait grimper d'un cran dans la terreur.
Voilà, donc c'est vrai que pour toutes ces raisons, parce qu'on ouais. va pas non plus Jaws, on pourrait en parler pendant des heures et on va pas le faire, mais pour toutes ces raisons, c'est vrai qu'aujourd'hui Jaws, 40 ans plus tard, il produit ouais. le même effet sur les gens.
Ouais.
Jaws, il est quand même à l'origine de toute une franchise directement liée, et deux, on le disait tout à l'heure en intro, mais d'un nombre de films de requins incroyable, parce que avant Jaws, il y avait eu qu'un film de requins, je crois.
Oh, si, il y en avait eu plusieurs quand même, mais c'était pas un genre majeur, donc c'était souvent des petits films, des petites productions des années 50-60. Il y en avait eu quelques-uns, mais en fait, c'était des films sans envergure.
Oui, j'en avais noté un moi, un peu notable en 59. Il y a un film de requin qui est sorti, voilà, mais finalement le genre n'était pas créé.
Non.
Jaws a créé le genre, et puis depuis, des films de requin, il en sort à l'appel, il en sort tous les ans, et donc ça a fait naître aussi un réalisateur, ça l'a fait exploser dans la mesure où c'est Jaws qui a permis après à Spielberg aussi de faire d'autres blockbusters, Rencontre du troisième type, et puis ainsi de suite, et les Indiana Jones et autres dont on a parlé. Donc sans Jaws, manifestement, sans ce coup de maître, Spielberg n'aurait peut-être pas eu non plus la carrière qu'il a eue par la suite. Donc ça nous a aussi donné un réalisateur majeur de l'histoire du cinéma.
Ok. Bon, bah, écoute, parfait.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour du culte.
Je pense aussi, et on va pouvoir, du coup, s'attacher maintenant au copiculte.
Copiculte.
Je m'appelle Julius, je suis ton frère jumeau.
Voilà, on enchaîne donc dans Copycult avec deux films principalement qui ont su rebondir sur ce genre et le renouveler.
Oui, voilà, c'est parce que c'est ça l'intérêt, c'est que des films de requins depuis Les Dents de la Mer, il y en a eu un certain nombre, et puis il y en a certains seulement qui réussissent à reprendre ce matériau un petit peu faiblard d'origine, cette histoire de requins, mais qui apporte des choses intéressantes. Et parmi ceux-là, on peut en citer deux en particulier. Donc là, on va commencer par The Reef.
Tout à fait.
Alors The Reef, c'est un film d'Andrew Troughy, son deuxième film, puisqu'il avait fait Blackwater avec un crocodile.
Ouais.
On va pas s'attarder sur les acteurs parce qu'ils sont pas connus du tout.
Non.
On peut juste dire que c'est tiré d'une histoire vraie, puisque ça raconte dans cette histoire, en fait, au départ, on a un type qui s'appelait Roy Bandy, donc ça c'est le héros réel, si je puis dire, qui s'est retrouvé à chavirer en mer avec son cuisinier et un marin, et puis ils ont voulu rentrer sur une planche de surf et ils se sont fait attaquer par un requin tigre. Mais tu vas nous faire le pitch de The Reef.
Tout à fait. En fait, en résumant l'histoire, ouais, t'as quasiment résumé le pitch. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est des amis qui se retrouvent pour convoyer un bateau neuf d'Australie jusqu'à son propriétaire en Indonésie, puisque ça se fait. Hein. Il y a des chantiers navals en Indonésie et effectivement, il y a des mecs dans cette job. Hein, et c'est quand même un job plutôt cool. Hein. T'es quand même payé pour aller naviguer jusqu'à d'un port à un autre et amener ce bateau neuf, donc un propriétaire indonésien, et donc il en profite pour amener pour appeler des potes à lui et se faire un petit trip sympathique, et d'ailleurs ça aurait dû être l'occasion d'un petit trip sympathique et de faire la fête et de passer du bon temps ensemble, sauf que quand le bateau heurte les hauts fonds, la fête vire au cauchemar et le bateau se retourne et sur le point de couler, et ils vont devoir du coup tenter de rallier la seule terre aux alentours, qui est une île qui est située à plusieurs kilomètres, et le tout évidemment dans une mer infestée de requins.
Alors, The Reef, c'est un film budgété à 35 millions de dollars quand même. Alors, personnellement, j'ai quand même du mal à voir où sont passés les 35 millions de dollars.
Pas dans le casting, déjà,
Pas dans le casting, c'est clair. Et c'est un film qui, alors, je n'ai pas trouvé le box-office, les recettes pour ce film, mais en tous les cas, il a bien marché à travers le monde. Il a très bien marché aussi en DVD et en streaming. Donc, le film est un succès, quand même, néanmoins. Et film australien, pardon, de 2010, je ne sais pas si je l'ai dit. Ouais, alors, ce que je trouve intéressant dans The Reef, c'est que c'est une approche radicalement différente des Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, c'est du spectaculaire, c'est un requin de 7 mètres, enfin bon, on connaît l'histoire.
Non, puis t'es dans une forme beaucoup plus scénarisée, beaucoup plus hollywoodienne, entre guillemets.
Oui,
début, une fin, il y a des personnages qui sont campés. Là, en fait, t'es directement dans le vif du sujet très peu de temps, quoi.
Alors les personnages sont pas très caractérisés, d'ailleurs c'est peut-être une faiblesse du film par rapport aux Dents de la Mer, mais en tous les cas, l'approche...
Le seul truc qu'on peut dire, c'est on nous met un peu de tension en nous indiquant, voilà, il y a un ancien couple qui pourrait se reformer, il y a un frère et une sœur, donc il y a des liens forts entre les personnages, parce qu'on sait qu'ils vont se retrouver dans la flotte et qu'il y en a certains qui vont devoir se faire bouffer et les autres regarder,
et
donc c'est quand même mieux. S'ils se connaissent bien et qu'ils ont des liens forts.
Ils ont quand même des liens entre eux. L'intérêt du film, c'est cette approche très très efficace, je trouve, et très très réaliste de ce qui pourrait se passer en vrai, en fait, si on se retrouvait dans l'eau au milieu de requins. Parce que dans beaucoup de films de requins, les personnages trouvent des subterfuges pour réussir à résister, pour tuer le requin, etc. Là, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans The Reef, c'est qu'une fois qu'ils sont dans l'eau, nos amis, on sent qu'ils sont vraiment à la merci du poisson, qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour lui échapper, de toute façon. Et on voit à quel point, si on se retrouve dans cette situation, c'est fatal. En gros, on ne peut rien faire face à un requin qui rôde autour de nous et qui se décide de nous attaquer. Il y a un fatalisme incroyable, en fait.
Exactement, et c'est vrai que c'est ce que tu disais, dans la vraie histoire, c'est un requin tigre, là, il a été remplacé par un grand requin blanc dans le film. Alors, je sais pas vraiment, moi, je sais pas trop, je me rappelle pas s'il le caractérise fondamentalement, s'il parle d'un grand requin blanc dans le film, j'ai pas l'impression. Mais il se trouve que, en plus de ce que j'ai lu, le requin tigre est quand même l'espèce la plus agressive vis-à-vis de l'homme.
C'est pas les plus gros, mais c'est les plus agressifs.
Ouais. Et c'est vrai que tu les vois évoluer tous. Alors, il y en a un qui est le copilote du bateau initial, voilà, qui lui Bah on va vous passer un extrait, hein, mais on se rend compte que lui, il sait très très bien ce qu'il y a sous l'eau, et même si le bateau est retourné, même si la coque est trouée, même s'il risque de couler, il préfère rester sur le bateau. On vous passe l'extrait tout de suite.
Il y a une terre là-bas, et je crois que c'est notre seul espoir.
J'ai trop pêché dans ces eaux, je sais ce qui traîne, je préfère rester au sec.
Et oui, le gars reste prudent, mais cela étant, ça va pas lui réussir plus qu'aux autres.
Non, mais les autres, eux, effectivement, plongent dans la flotte, se retrouvent du coup en banc serré, entre guillemets, hein, en banc serré de naufragés, et se retrouvent à avancer dans une mer où ils voient absolument aucune terre, ils n'ont que très peu de repères, il y a l'autre pilote, donc l'autre convoyeur de navire qui sait à peu près se repérer avec sa montre.
C'est ça, quoi. Donc il est persuadé qu'en nageant, je crois, 7-8 kilomètres, ils vont retrouver l'île d'où ils venaient. Mais bon,
mais
on ne
dans la
jamais.
Réalité, ils se retrouvent quand même comme des cons au milieu de l'eau. Ils sont 5, 4,
4. Ils sont 4, oui. Voilà. Oui. Bah oui, le frère, la femme du frère, l'ex du héros et le héros, ils sont 4 avec une demi-planche de surf, une demi-planche de
une
pas
demi-bouée,
de surf,
mais
bouée qui sont coupées en deux. Mmh. Et c'est alors le requin, il apparaît assez tard. Hein, j'avais compté, il apparaît presque à la 50e minute du film. Mais du coup, il installe bien la tension.
Ah oui, oui.
Il leur laisse le temps d'aller dans l'eau, de commencer à nager, et puis c'est même pas des requins, parce que ça aurait pu être une eau infestée de requins, c'est un requin a priori, hein, qui tourne autour, qui veut pas les lâcher, et il y a quelque chose vraiment d'implacable, de sans issue dans ce film. Mm-hmm. Il n'y a pas un moment donné où on se dit bah ils vont peut-être trouver quelque chose pour lui échapper. On sait qu'ils vont y passer un par un. Ouais.
Mais parce qu'en fait, c'est la grosse différence aussi avec le film de Spielberg. C'est-à-dire que y a un moment où, si tu n'as pas envie de te faire bouffer dans le film de Spielberg, tu prends ton bateau et tu retournes sur la terre ferme. Mm. Là, il n'y a pas le choix. Ils sont dedans et ils y restent. Et ils y resteront jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen de sortir de l'eau. Et en attendant, ils sont 100% à la merci des dents du requin.
Des dents de ce requin. Et puis, il y a un petit... Un petit procédé de la réal qui est intéressant aussi, c'est qu'ils n'ont qu'un seul masque, hein, tous les trois. Et donc, il y en a un qui met le masque et c'est le seul moyen qu'il a pour regarder sous l'eau.
Pour voir où est la menace.
Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il continue de mettre la tête sous l'eau et de regarder. Mais quelque part, de toute façon, là aussi, c'est sans issue, ça sert à rien. Parce que quand bien même il voit le requin arriver, de toute façon, c'est pas ça qui va l'aider, quoi.
Je suis d'accord, je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit, mais pourquoi il met la tête sous l'eau? Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un requin qui lui fonce dessus. Il ferait mieux de continuer à nager.
Voilà, exactement. Donc, The Reef, pas la peine d'en faire non plus une demi-heure. C'est surtout pour ça. C'est ce huis clos en plein air, finalement, qui est assez intéressant l'opposé que ça peut faire d'un film comme Les Dents de la Mer avec les gros moyens.
On a un dénouement qui est assez rigolo puisque effectivement on a les deux seuls survivants à la fin. Hein, c'est l'ancien couple et on voit bien que l'histoire pourrait repartir. Hein, oui et donc voilà, elle aime Luc et Luc lui arrive à la mener jusqu'à un récif où elle va être à l'abri, sauf que elle n'arrive pas, et c'est Luc et c'est le requin qui le bouffe
et
en fait.
Voilà, ouais. Et effectivement, alors d'où le titre du film, The Reef, le récif, on comprend pourquoi ça s'appelle comme ça, et puis le pauvre Luc, lui, il se fait boulotter par le requin et il disparaît tragiquement. Donc c'est en plus un film qui finit pas comme pas mal de films de requins, il y a quand même toujours
un happy end
ou souvent au moins le personnage qui
s'en sort. Ça finit sur un panneau effectivement qui vous explique qu'elle a été recueillie 2 jours après par un cargo qui passait là, et c'est là où pour ma part en tout cas, hein, quand j'ai vu le film, je ne savais pas que c'était une histoire vraie, et du coup ça a encore un petit peu plus glacé le sang.
Oui, c'est vraiment ce côté implacable du film, une longue descente dans les profondeurs du drame, et ça se finit d'une façon quand même terrible. Voilà. Voilà. Alors, on va peut-être vous parler d'un deuxième film.
Évidemment.
Qui nous a retenu aussi notre attention.
Un peu dans la même veine.
Un peu dans la même veine, effectivement, le côté survival comme ça, et entre des personnages pris dans les.
Enfin, des personnages, un personnage même, on peut dire. Hein. Tu peux
dire. Un personnage.
C'est un personnage, parce qu'il y a quoi, dans ce film, dans Instinct de survie, il y a quoi? Il y a Blake Lively.
Blake Lively.
Et puis, j'ai compté, parce que j'ai fait mon travail, j'ai compté 10 rôles crédités, si on inclut la mouette dedans.
Et si on a, oui, parce que la mouette,
mais
personnage
les,
à part entière.
Les, tous les autres rôles doivent compter à peu près 10 minutes de présence, hein. En fait, il n'y a que Blake Lively dans ce film.
Tout à fait. Alors, ce deuxième film dont on va vous parler, c'est Instinct de survie. En titre original, The Shallows, les bas-fonds, pour traduire. Et donc, tu nous fais le pitch rapidement, Carl.
Bien sûr, très rapidement. Bah, de toute façon, il est assez simple et assez redoutable, le pitch de ce film. Hein. C'est une jeune femme qui débarque sur un spot de surf au Mexique. Alors, un spot de surf, c'est un endroit un peu quasi désert. C'est un endroit qui se mérite, comme on dit. C'était l'endroit préféré de sa mère, elle vient de mourir, la jeune femme est un peu perdue, paumée, en quête de sens, elle voudrait communier un peu avec la nature, elle va être servie, elle va bien communier avec la nature, puisqu'elle débarque sur cette plage, elle commence à surfer, elle croise, donc le chauffeur la dépose, elle croise deux surfeurs qui sont là, qui lui indiquent un peu les spots intéressants, l'après-midi touche à sa fin, elle est restée seule sur la plage, elle voit quelque chose au loin, elle va voir, c'est une baleine qui est échouée, qui a été sur des hauts fonds et qui a été attaquée. Et elle se rend compte qu'elle vient de rentrer dans la zone de nourriture d'un requin. Et donc elle essaie de repartir, évidemment elle se blesse et elle va être obligée de se réfugier sur là aussi un récif. Et le pire de tout, c'est qu'elle se retrouve en gros bloquée à 300 mètres de la plage.
Quel pitch, donc un survival, une femme confrontée à un requin, confrontée à son bureau et à son bourreau, pardon, et donc dans tout le film, elle va essayer petit à petit de lui échapper. Donc, contrairement à The Reef, qui, on l'a dit, est très réaliste dans son approche, bon, il y a un côté évidemment lutte dans celui-là, dans The Shallow, puisque elle affronte le requin et puis elle finira par réussir à s'en débarrasser. Donc c'est un petit peu moins réaliste dans l'approche, mais il y a ce côté vraiment affrontement permanent là juste entre deux personnages qui fait tout le sel du film.
Exactement, c'est très minimaliste et en même temps c'est moi je trouve que le côté primal de l'instinct primaire de survie, il est très bien rendu, restitué là, parce que on sent que il y a très peu de solutions.
Oui,
mais mais c'est vraiment l'instinct de survie qui fait que t'es là jusqu'au bout et que tu t'en sors ou pas.
Et que tu fais tout pour essayer de survivre. Exactement. Et il y a des scènes qui le montrent bien. Quand elle se blesse, elle finit par utiliser son propre collier pour se rafisteler.
Alors c'est pas Rambo, on vous rassure, même si la scène rappelle un petit peu une scène de Rambo, mais il se trouve qu'elle est étudiante en médecine, hein, donc elle sait un petit peu
y faire. Voilà, mais... Alors on l'a pas dit, mais c'est un film de 2016, un film de Jaume Collet-Serra, qui est un réalisateur espagnol. Lui, il s'est spécialisé depuis quand même dans les films de Liam Neeson, hein, parce qu'il en a fait toute une série avec Liam Neeson.
C'est un sous-genre intéressant.
Toujours intéressant, mais bon, ça marche bien. Et puis alors, bientôt, il a réalisé Jungle Cruise, l'adaptation de l'attraction Disney avec notre ami The Rock, et puis Black Adam qui sort. Donc, Jaume Collet-Serra, il commence à bien marcher quand même. C'est un réalisateur qui s'est fait bien connaître par ce film, hein, notamment par The Shallow, avec Blake Lively, donc on en a parlé, qui est une actrice de série au départ, Gossip Girl.
Écoute, moi j'avais pas mal d'a priori puisque sur le personnage, et je trouve que elle est plutôt assez convaincante et elle s'en tire plutôt bien dans un truc très dépouillé, très épuré. Ça marche pas mal.
Ce que j'avais lu aussi, c'est qu'elle s'est fait elle venait d'accoucher 10 mois avant, donc elle a fait une préparation physique de malade pour avoir le corps qu'elle a dans le film. C'est vrai qu'elle est assez affûtée. Et puis 17 millions de dollars de budget et alors de grosses recettes, hein, 55 millions aux États-Unis, Canada, 119 millions dans le monde. Il est clair que c'est une très très bonne opération, ce film, et effectivement c'est un bon film et on comprend pourquoi il a pu marcher. Le requin, on le voit assez peu, hein, je trouve, on le voit au début en tout cas, et il arrive progressivement, quoi. La menace se révéler progressivement. Il y a un sens de la réal qui est des cadrages qui sont assez habiles aussi. Je trouve qu'il a quand même, il fait usage de bonnes idées. En particulier, il y a une scène que je trouve très très intéressante, enfin très belle même dans le traitement, c'est celle avec les méduses.
Ouais, tout à fait. Ouais, elle est jolie. C'est vrai. C'est vrai. Et même si je suis tenté qu'on puisse qualifier ça de jolie quand tu te retrouves perdu au milieu d'une mer, au milieu d'un banc de méduses et avec un requin qui essaye de rentrer dedans pour te bouffer. Mais oui, c'est assez joli.
Elle se protège, on peut le dire. Elle se sert de méduses qui sont autour dans le coin où elle est pour se protéger, puisque du coup le requin ne va pas attaquer les méduses. Donc c'est plutôt habile, c'est plutôt une idée intéressante.
Mais d'une manière générale, de toute façon, dans ce film, il y a quelque chose d'assez d'assez implacable. En fait, hein, la situation fait que tu as un animal qui est face à sa proie, et c'est un requin, donc par essence, on sait qu'il lâchera pas. Il y a quelque chose d'assez inéluctable, en fait. Tu peux pas, tu sais qu'il va y avoir une confrontation si tu sors de ton rocher. Tu sais qu'à marée haute, ton rocher serait immergé, donc tu dois sortir de là et impérativement gagner un autre lieu sûr. T'es blessé à la jambe, donc tu sais que tu nages pas assez vite. De toute façon, si elle était au meilleur de sa forme, elle nagerait pas plus vite qu'un requin. Mais alors là, en plus, c'est une proie facile. Et donc, il y a quelque chose d'assez dur, d'assez insoutenable, quoi, parce que tu sais que t'as quasiment aucune chance de t'en sortir, parce que t'es blessé, tu saignes, le requin repère une goutte de sang à des kilomètres dans l'eau, et il t'a bien identifié comme potentiellement bouffable, quoi. Et donc, c'est quand même, ça met une tension dès le moment où le requin percute la planche de surf, et jusqu'à la fin.
Ouais, complètement. Bah, on sait très bien que quand un requin sait repère une proie en plus vulnérable, et en général, il ne la lâche pas que jusqu'à ce qu'il l'ait bouffé. Donc voilà, un film, pour toutes ces raisons, un film qui franchement a retenu notre attention, qui apporte encore quelque chose de différent par rapport à The Reef, encore différent par rapport aux Dents de la Mer. Et alors, pour finir, peut-être, moi j'ai une petite anecdote qui m'a fait...
Le petit truc, ouais. En plus, juste avant de boucler, moi ce qui est aussi frustrant dans ce film, c'est que elle n'est pas perdue en pleine mer.
Non, elle est pas si loin du rivage.
Elle est à 400 ou 500 mètres au max du rivage. Donc elle voit, en fait, la solution, elle est là. Le refuge, la terre ferme, elle est juste à côté. Mais elle sait que si elle se lance dans ces 400 mètres de nage, elle va se faire bouffer.
Voilà. Donc, du coup, le salut vient de la mer, parce qu'elle est obligée d'aller sur une bouée un peu plus loin. Ouais. Et c'est comme ça qu'elle réussira à lui échapper.
Bon, après, c'est d'ailleurs, moi, je trouve la fin qui pêche le plus, en fait, parce que je trouvais que jusque là t'étais quand même assez réaliste dans le traité, en tout cas dans l'approche, même si les images évidemment sont assez stylisées, assez jolies et cinématographiques, voilà, mais c'est pas du docu bien sûr, mais quand même t'es dans une approche assez réaliste, sauf
c'est
le dénouement et la façon dont t'es tué le requin, où là on bascule dans un truc dans le scénario hollywoodien, voilà,
oui, parce que c'est là, alors là pour le coup c'est tout ce qui sépare The Shallow de The Reef, hein, c'est que à la fin tu retrouves une espèce de subterfuge qu'elle va utiliser.
Exactement.
Pour tuer le requin qui de toute façon en vrai
ne
pourrait pas arriver. Voilà. Et donc, petite question, sais-tu quelle est la scène qui a été la plus compliquée à tourner dans ce film?
Le fait, ça on n'en a pas parlé, mais le fait qu'elle ait réussi à apprivoiser une mouette qui est aussi blessée sur le rocher.
Il y a cette scène qui est peut-être, alors qui est bon, voilà, c'est comme Tom Hanks avec le ballon de handball, volleyball. Bon, là, elle discute avec une mouette. Bon, voilà. Du coup, il gagne quelques minutes dans le film. C'est pas ce qui est le plus réussi, quand même. Mais bon. Et non, alors figure-toi que la scène qui a été la plus difficile à tourner, eh bien, c'est une scène du début, en fait, quand elle est dans l'eau, sur son surf, en train de discuter avec des types qui dont un sera mangé plus tard.
Ils n'arrivaient pas à stabiliser la caméra,
Ils n'arrivaient pas à stabiliser le truc. Et donc, pour faire cette scène, il a fallu 9 bateaux, 70 personnes, des caméras fixées à une grue, etc., juste pour faire cette pauvre scène où elle discute.
Ça a rendu aussi 30% du budget.
C'est dingue. Alors que le requin en CGI, la mouette et tout, bon bah manifestement ça n'a pas coûté autant d'argent, c'est plutôt marrant de savoir ça. Donc voilà, donc Instinct de survie, un bon film qu'on vous conseille si vous voulez vous intéresser au genre.
Ah bah si vous vous intéressez au genre et que vous voulez voir la façon dont il a été renouvelé, c'est vrai que The Shallow et The Reef sont quand même des bons films à voir. Maintenant je vais te laisser œuvrer sur un autre film qu'on aurait pu inclure si on avait eu le temps, mais on ne peut pas tout traiter, mais on ne pouvait pas quand même
se passer
de le mentionner. Voilà.
On va vous le mentionner. Alors ce film il fait débat, hein. C'est vrai qu'il aurait pu faire, il aurait pu être aussi dans un Ça se discute, mais
tout à fait.
Mais quand même Peur bleue, puisque c'est son titre, Deep Blue Sea, titre original, Terreur sous la mer. En canadien, en québécois, pardon. Donc Peur bleue, pourquoi on vous en parle rapidement? Parce que Peur Bleue, il sort en 99, donc il sort un peu plus de 20 ans après Les Dents de la Mer. C'est un peu le premier film, un peu plus de 20 ans après, qui apporte quelque chose d'un petit peu différent. On n'est pas en train de vous dire que c'est un bon film, parce qu'il est quand même traité façon blockbuster, il y a de grosses ficelles, hein, il y a des personnages assez caricaturaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que il apporte une sorte de... C'est un huis clos avec des requins qui, pour la première fois, sont faits, eux, en mélange d'animatronique, de CGI... alors qu'il n'y avait pas de CGI à l'époque des Dents de la Mer. Et il a un côté très très fun, ultra décomplexé, ultra divertissant. Et il y a quelques scènes bigger than life dans Peur Bleue. Et il y en a une en particulier, moi, qui fait que je le classe dans les films intéressants. C'est que, on lisait tout à l'heure, Steven Spielberg n'a pas choisi un casting de star dans son film.
Non.
Renny Harling qui réalise Peur Bleue. Alors Renny Harling, on va pas revenir sur lui, on en parle déjà largement dans notre premier épisode, ouais, puisqu'il a réalisé la suite de Die Hard. Et donc dans Peur Bleue, il y a Samuel Jackson. Et donc une des meilleures scènes du film, c'est que Samuel Jackson est présenté quand même comme le héros, le type qui va sauver tout le monde. Et lors d'une scène mémorale où il fait un monologue de folie, il se fait soudainement bouffer par le requin qui sort dans ses eaux. Et donc ça, c'est un choix scénaristique intéressant parce que ça surprend beaucoup. Et c'est vrai que dans des blockbusters comme ça, être surpris, c'est pas tous les jours qu'on l'est. Donc il y a cette scène-là qui vaut son pesant d'or. Et puis il y a tout après, toute une succession de scènes plus cultes les unes que les autres, pas très réalistes.
Si on avait eu le temps, on en aurait fait un fantastique 16 discultes, moi je trouve.
Et c'est vrai.
Parce que moi je suis pas vraiment convaincu, mais bon, mais voilà, il y a des choses intéressantes dedans, c'est vrai, notamment la scène que tu viens de pousser et qui est effectivement assez drôle et surprenante. Alors il y a des choses qui sont quand même
Mais il y a des choses qui sont scénaristiquement, c'est du bon n'importe quoi. Le L. Cool G qui joue dans le film.
L. Cool G, c'est n'importe quoi.
Voilà, qui est là pour ce
début à la fin.
Qui finalement finit
avec
par
Coco le perroquet.
Son perroquet. Le type se cache dans un four. Il finit par faire exploser le requin.
Les requins génétiquement modifiés. Qui sont soi-disant 5 fois plus intelligents et qui du coup voudraient quand même sauter la barrière et trouvent que c'est plus intelligent de descendre jusqu'au fond du complexe pour après remonter à l'intérieur et revenir là où ils étaient au début, pour pouvoir sauter la barrière.
Ces requins ont faim, ils ont envie de manger. Non, la petite différence là-dessus, c'est que, tu sais, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais Spielberg, il s'en est voulu des années après d'avoir traité le requin comme ça, parce qu'à cause de Spielberg, les gens ont peur des requins, c'est devenu l'animal à tuer, à chasser. Donc ils ont fait le choix de modifier les requins. Ils sont méchants parce que génétiquement ils ont été modifiés, donc pour essayer de pas taper encore trop sur l'animal, on va dire. Après il y a des scènes, c'est du grand n'importe quoi, mais bon, du coup ça divertit, ça fonctionne, c'est un bon divertissement ce film. Et comme le disait Renny Harling, lui, ce qu'il a voulu faire, comme il savait qu'il n'arriverait pas à la hauteur de Jaws, il s'est dit je vais faire le contraire, je vais beaucoup montrer les poissons. Donc on les voit beaucoup et il y a des scènes assez spectaculaires du coup pour cette raison. Voilà, donc Peur Bleue, par curiosité, allez le voir, vous passerez quand même un bon moment.
Tout à fait. Et maintenant, nous, on va passer un bon moment à discuter de Orca.
Ça se discute.
Quel est votre pronostic pour ce combat ?
Une boucherie.
Et voilà un 16 discute. Pourquoi on vous met un orque, un film sur un orque dans un épisode sur les requins? Et ben, c'est justement pour ça que nous avons mis Orca dans la partie ça se disculte de l'émission, parce que oui, d'accord, c'est un orque, mais en même temps, quand même, on n'est pas loin du film de requin, puisque on a un animal qui vient semer la terreur, des gens qui le poursuivent et qui se vont bouffer les uns à la suite des autres jusqu'au dénouement final. Donc dans la construction, on n'est quand même pas loin de pas mal de films de requins qu'on a présentés ou qu'on va présenter.
Alors, Orca, effectivement, on ne peut pas le nier, ça sort 2 ans après Les Dents de la Mer, puisque c'est un film de 77, et évidemment, ce n'est pas une coïncidence que ce film parle d'un gros poisson.
Ah, c'est même carrément une commande de Dino De Laurentiis, qui a dit au réalisateur, s'il te plaît, fais-moi Jaws, mais en plus gros, Hein, je voudrais plus gros en animal. Et donc, effectivement, bah, plus gros dans la mer que le requin. Il y a la baleine, mais enfin, ça, c'est pas trop la trouille.
Ça fout moins les jetons.
Et il y a les polars, l'orque.
Voilà. Et donc, Dino de Laurentiis, donc producteur italien très très habitué des grosses bêtes, puisqu'il venait de faire le remake de King Kong, quand même, faut pas l'oublier. Hein.
L'année d'avant.
Enfin, il est oubliable, ce remake.
Oui, c'est vrai.
Mais les grosses bêtes, ça le connaît. Et il a flairé le bon filon en se disant, on va faire un film de gros poissons. Alors, il y a Orca, donc 1977, réalisé par Michael Anderson, à qui on doit L'Âge de Cristal, hein, plus connu sous le titre original Logan's Run, qui est un bon
c'est
film.
C'est génial, j'adorais voilà. L'Âge de Cristal. Sauf les costumes ont un peu vieilli quand même.
Oui, les costumes ont vieilli. Il y a une série, effectivement, tirée aussi du film L'Âge de Cristal. Hein, vous savez, c'est dans ce film où les gens, à partir de 30 ans, ils sont censés mourir. Donc,
ils vont au carrousel.
Voilà, et ils disparaissent, et il n'y a plus que des gens de moins de 30 ans dans cette fiction. Il avait fait le tour du monde en 80 jours juste avant, qui avait bien marché aussi, donc un solide réalisateur. Et donc, il est approché par Dino De Laurentiis pour nous réaliser Orca. Moi, Orca, pour moi, c'est simple, c'est un film, c'est le premier film de Serial Killorc, vois-tu. C'est comme ça que je le résume. Et donc, dans Orca, on retrouve qui ? Richard Harris, qui est un très grand acteur.
Un acteur très très solide, voilà. Effectivement. Bah, les canons de Navarone, les révoltés du Bounty, Cromwell,
Major Dundee,
Tarzan, l'homme singe, et Gladiator.
Et oui, oui.
Et ça a été quand même le Dumbledore.
Le premier Dumbledore, effectivement, voilà. Avant de décéder. Et donc, il est remplacé par la suite, mais il a été Dumbledore, je crois, dans les deux premiers. Hein,
tout à fait, c'est ça.
Dans les premiers Harry Potter. On retrouve aussi au casting Charlotte Rampling.
Tout à fait.
Qui joue la scientifique Rachel. Et puis, alors, c'est pas un grand rôle pour elle, mais Bodérec, dans le film, qui après est devenu. Alors, le corps de Bodérec est devenu culte dans les années 80.
Oui, le corps, hein, parce qu'elle, moi j'ai regardé un peu sa filmo, c'est un peu du caca. Hein.
C'est très pauvre quand même. On la retient surtout pour son physique, faut le dire. Et puis, tu vas nous parler d'un acteur aussi que tu aimes beaucoup dans ce film.
Un acteur que j'aime effectivement beaucoup, enfin que j'aimais beaucoup, puisqu'il est, il est lui aussi décédé, qui s'appelle Will Sampson, et qui jouait notamment, vous l'avez vu dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, si vous avez vu ce film avec Nicholson, qui se retrouve enfermé dans un asile.
Bien sûr, voilà. Magnifique.
Et c'est le grand chef, puisque c'est un Amérindien, de taille fort imposante. Voilà, c'est le grand chef dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il a joué dans pas mal de western, des Buffalo Bill, des José Wells, Hors la loi, etc. Et il a aussi joué dans un film qui est pas très loin de ce qu'on vous présente aujourd'hui, qui s'appelle Le Bison Blanc, et qui est un western dans lequel Charles Bronson officiait également, et où ces deux hommes, donc Charles Bronson et Will Sampson, sont obsédés par un bison albinos, et qu'ils vont se mettre à traquer dans un western qui se déroule quasi entièrement dans la neige. Et c'est une espèce de Moby Dick sur Terre.
Dans les plaines.
Voilà.
Donc intéressant, puisque effectivement, c'est un peu une histoire de vengeance aussi. Orca. Et alors d'ailleurs, on parle des personnages, mais il y a aussi évidemment dans le casting, il y a l'orque. Tu sais comment s'appelait cet orque?
Jean-Claude?
Non, il s'appelait Charles.
Ah bon? Mais j'étais pas loin.
Charles Bransorque, bien entendu. Et on va comprendre pourquoi.
Ah bah oui, tout à fait.
Alors, parce que Orca, tu vas nous faire le pitch, Carlito, mais
bien
c'est
sûr.
Une histoire de vengeance. Mais la vengeance d'un animal.
Ouais, tout à fait. Mais c'est ça. En fait, qu'est-ce qu'on a dans Orca? On a un capitaine désargenté, quelqu'un qui a hérité d'un bateau et qui essaye d'en tirer sa croûte et qui cherche justement le bon filon pour se renflouer. Et là, il voit dans la chasse à les polars un bon moyen de remplir son portefeuille. Il dit, tiens, je vais me faire rapidement de l'argent avec ça. Mais sauf que ce genre de poisson est assez difficile à attraper et il va vite s'en rendre compte à la première sortie en mer où il va pêcher des polars. Ça vire au cauchemar et au drame traumatisant. Une femelle finit par se prendre dans les pales du bateau. Elle est gravement blessée. Il arrive à la hisser sur le pont avec une grue et se rend compte qu'elle était sur le point de mettre bas. Elle met bas sur le bateau, évidemment, le fœtus meurt, la mère meurt, et tout ça sous les yeux du mâle qui observe la scène d'un œil pas du tout bienveillant.
Pas du tout.
Voilà. Et évidemment, c'en est trop pour son petit cœur, et il bascule dans une rage meurtrière qui ne sera apaisée qu'une fois qu'il sera vengé. Et donc, il va harceler le capitaine de ce bateau jusqu'à obtenir le duel final en pleine mer.
Et c'est un peu à la fois la force et la faiblesse du film, ce que tu viens de nous raconter, le scénario, Carlito, parce que le film, en fait, et c'est pour ça que c'est un peu du sas-dis culte, c'est que, bon, ok, au-delà d'être un orque, c'est que ça, c'est en équilibre toujours instable entre un film qui cherche à se démarquer sur le scénario, parce qu'effectivement, l'orque, c'est l'animal qui se venge, et c'est intéressant de ce point de vue.
En fait, les mecs partent du postulat que l'orque est un animal extrêmement intelligent, et donc, du coup, il serait capable d'avoir des sentiments et des émotions presque humaines.
Voilà, et il y a un anthropomorphisme assez exacerbé dans ce film, puisqu'on nous caractérise un orque comme un humain, vraiment, un humain rempli de l'instinct de vengeance. Et alors, intéressant, mais on essaie quand même de nous le faire avaler pendant tout le film, c'est le cas de le dire, et donc c'est répété 25 fois dans le film, parce qu'ils sentent bien quand même que ça va un petit peu loin, cette histoire de vengeance quand même.
De toute façon, ils ouvrent même le film directement là-dessus. Hein. Ils ouvrent le film sur une espèce de scène quasi idyllique avec des orques qui s'amusent, qui jouent entre eux
sur le soleil couchant.
Voilà. Voilà. Et donc, on nous les présente comme des animaux
paisibles. La parfaite petite famille.
Exactement. Et qu'est-ce qu'on vient foutre là à les emmerder? Nous, on est vraiment des salauds.
Mais c'est ça, l'équilibre instable du film, c'est que, ok, pourquoi pas, l'histoire est intéressante, mais c'est hyper kitsch aussi. C'est hyper kitsch pour plein de raisons. Alors, il y a les effets spéciaux qui ont vieilli, mais à force de vouloir nous faire gober que l'orque est donc un animal est pris de cette soif de vengeance, ça devient un peu risible.
Regarde, écoute d'ailleurs ce qu'on te dit. Ça sort de la bouche des plus grands scientifiques, dont Charlotte Rampling. Écoute bien ce qu'elle te raconte à propos de l'orque et de son comportement, et tu sauras que tout ça est tout à fait crédible et plausible. On vous laisse juger par vous-même.
He followed you. He saw you on the deck of the boat.
They always remember the human being who had tried to harm them.
He deliberately left you your boat because he wants to fight you on the sea.
Et ça, on va nous le resservir à plusieurs reprises dans le film. Alors, tu le disais, il y a la scène où Richard Harris chasse l'orque et il tue par mégarde la femelle. Donc, la femelle se suicide. On voit l'œil de l'orque rempli de larmes. Donc, ça, c'est kitsch à souhait. Voilà. Plus le fœtus qui tombe sur le pont du navire.
Ça, c'est une scène. Moi, j'ai vu ce film quand j'étais plus jeune, et c'était une scène traumatisante.
C'est traumatisant.
La femelle qui se jette contre les pales du moteur de l'hélice, et le fœtus qui atterrit comme une merde,
sur le pont du bateau, éjecté à coups de jet d'eau. C'est horrible. Et alors, c'est vrai, ça, c'est une force d'avoir essayé de construire une histoire différente, mais ça en devient une faiblesse parce que l'orque, il est quand même hyper machiavélique, hyper intelligent, et que on veut vraiment nous le faire passer pour un humain. C'est pour ça que je disais, c'est Charles Bronson dans La Flotte, mais c'est un peu ça, et c'est un peu too much à ce niveau-là.
Mais en même temps, c'est assez intéressant parce que ça renverse un peu les rôles et les genres, et c'est pour ça que je trouve il a quand même sa place dans un épisode comme celui-ci, parce que pour une fois c'est pas l'homme qui chasse le requin, mais là c'est l'orque qui chasse l'homme.
C'est l'homme qui chasse l'orque. Alors tu parles
c'est l'orque qui chasse l'homme.
Et c'est marrant parce que moi j'ai un souvenir de ce film. Je me souviens quand j'étais gamin, il y avait une émission sur TF1 le samedi matin, je crois, qui montrait juste les bandes annonces des films qui sortaient dans la semaine. J'aimais bien cette émission. Et un jour, je tombe sur la bande-annonce de d'Orca, et donc, enfin, en tout cas, un extrait. Et je vois un extrait de ce film avec donc la scène de fin du film où on voit Richard Harris poursuivi jusque dans la banquise et qui se retrouve sur un bout de banquise isolé comme ça, et l'orque autour. Et en fait, ça m'avait hyper impressionné, cette scène. Ouais. Et je m'étais dit, waouh, c'est vraiment un film, ça a l'air extraordinaire. Et donc, du coup, j'ai un côté très nostalgique et je suis plein de sympathie pour ce film, même si en le revoyant.
Moi aussi, je suis d'accord avec toi, il a pris une claque.
Il y a quand même des grosses ficelles, c'est encore une fois très kitsch.
Je suis d'accord avec toi, moi je l'avais pas revu depuis peut-être, je sais pas, une éternité, et donc c'est vrai que en le revoyant, j'en avais gardé une espèce de souvenir, j'avais cristallisé plein de jolies choses autour de ça, parce que c'était mes yeux d'enfant, les yeux d'adulte qui repassent dessus, c'est un peu dur.
Parce que cette histoire, elle va un petit peu loin quand même. Ouais. Alors on veut vraiment nous faire croire que l'orque est capable de faire tout ça. Et donc cet orque là quand même. Il retourne dans un village. Il est capable de choisir la maison sur pilotis où se réfugie la copine du héros. Il dégomme la maison. Il réussit quand même à dégommer tout le pipeline, enfin tous les tuyaux qui alimentent les bateaux en pétrole, et il fait péter tout le village. Enfin, tout ça pour dire que ça va un petit peu loin dans la vengeance et dans l'intelligence de cet animal, même si je n'ai rien contre les orques, évidemment. Hein.
Mais il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est là aussi... mais inversé, t'as une espèce de côté un peu inéluctable, il va falloir à un moment, le truc est pending, quoi, c'est-à-dire qu'il va falloir régler le truc, à un moment ou à un autre, il va falloir reprendre la mer, et soit finir le travail commencé, soit y laisser sa vie, mais le capitaine va pas pouvoir s'en sortir autrement.
Non.
Et c'est ça qui est intéressant, il y a une notion de... à la fois de responsabilité et de culpabilité.
Oui, 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 tout à fait.
Parce que on le dit à un moment, le capitaine lui-même a vu, je crois, sa femme et son fils tués par un chauffard ivre, et il s'en est jamais vraiment remis. Et il le dit d'ailleurs à un moment, voilà, c'est il est le chauffard ivre de l'orque.
Exactement. C'est ça, c'est intéressant parce qu'on découvre en fait le personnage de Richard Harris. Il évolue beaucoup dans le film,
oui.
Parce qu'on nous le présente comme un pêcheur sanguinaire au départ, mais à partir du moment où il tue la femme de l'orque,
oui.
Il réalise qu'il s'est mis dans la position du chauffard qui a tué sa propre famille quelques années avant, et il se sent de plus en plus proche de l'orque. Il le comprend, cet orque,
oui.
Jusqu'à finalement presque à la fin presque se sacrifier.
En tout cas, il accepte son destin.
Voilà, il accepte son destin. C'est vrai que Orca, c'est un peu Moby Dick à l'envers, parce que c'est finalement l'orque qui pourchasse le pêcheur. Mais il y a cette évolution du personnage principal qui est assez sympathique parce qu'il a de l'empathie pour son bourreau. Voilà, donc on a cet affrontement entre ces deux personnages, l'orque et le pêcheur, et donc ce personnage de Richard Harris qui évolue beaucoup dans tout le film, et ça, c'est très intéressant. Même si c'est vrai que l'orque finit par le pousser à reprendre la mer pour aller l'affronter, alors qu'on se dit quand même que bon, il aurait pu quitter le village, il aurait pu s'en aller et puis mettre toute cette histoire derrière lui. Mais
il aurait foutu tous les orques de la planète sur son cul, l'autre. Hein. Il lui aurait mis une espèce de David Recherche, ça aurait été terrible. Il le sait, hein, les orques, c'est terrible.
Ah, mais ça te poursuit jusque dans ta salle de bain. Ah, mais limite, s'il remonte par les tuyauteries, ils peuvent. Tout est possible avec un orque. Donc, c'est ce côté too much qui pâtit, qui pêche, c'est le cas de le dire, pêche, et qui fait du film parfois, hein, qui le rend un poil ridicule à certains moments, au-delà d'être kitsch, hein, dans certains traitements, des émotions de l'orque, notamment. Et puis, il y a quand même des trucs, les personnages secondaires sont inexistants dans ce film. Mais même Charlotte Rampling.
Elle n'est pas bien du tout traitée, je trouve vraiment. C'est dommage d'ailleurs, hein, mais tu sens la réplique basique, hein, c'est-à-dire que vous avez fait Jaws et il y avait un scientifique dedans et il avait un rôle un peu Wikipédia, d'accord, et on va prendre la même chose,
ça va être une femme, ingrédient.
Voilà, et c'est vrai que c'est pas du tout, son personnage n'est pas du tout exploité, elle est là justement pour prévenir que ces animaux sont très intelligents, ils sont capables de vengeance, elle est là pour venir cranter un peu tout ce que ne raconte pas le film.
C'est ça, puis c'est un petit peu, tu sais, c'est un petit peu notre œil, quoi, c'est le troisième œil, c'est que l'histoire est pratiquement vue à travers elle, quoi.
D'ailleurs, elle relate, hein. Elle est en voix off.
Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais,
elle est en voix off un certain nombre de moments dans le film, elle explique elle-même l'action ou ce qui va se passer ou ce qui résulte des actions.
Voilà.
Donc, c'est elle qui relate l'histoire.
Donc voilà, donc les personnages ne sont pas très existants, à part les deux principaux, le poisson et puis le pêcheur. Les autres, ils sont là pour se faire bouffer en plus. Hein,
c'est ça, la plupart du temps, parce que quand même, cette espèce de bête est capable de sauts absolument acrobatiques. Mais en même temps, c'est pas pour rien qu'ils ont envahi tous les Marineland pendant des années. Hein.
Exactement.
Et donc, effectivement, dès que tu passes... ne serait-ce qu'une tête au-dessus du navire, tu te fais croquer.
Mais direct. Il te saute dessus, il te happe par tout ce qui peut te choper et tu finis en pâté pour orque. Mais
il n'y a pas de mort. Enfin, c'est-à-dire, il n'y a pas de scène de mort. On les voit se faire choper, mais par contre, à la différence des films de requins, on ne les voit pas se faire découper, on s'en fout.
Non, on s'en fout.
En fait,
ils disparaissent.
Ils disparaissent et ça augmente la pression sur lui qui doit quand même se résoudre à faire
quelque chose. Alors, Il y a bon, une petite séquence comme j'aime Human Johnson. Il y a quand même un Human Johnson dans le film parce que t'en as qui disparaissent, mais il y en a un en particulier qui s'appelle Ken. C'est-à-dire que Ken.
Pourtant, Ken, c'est le survivant.
Hein. Et en général, c'est lui qui survit, mais là, pas de bol. Il n'a pas fait la bonne pioche puisque Ken, il se fait. Il est à deux doigts de se faire manger au début du film. Alors sur une scène sur laquelle on va revenir un petit peu. Et mais surtout, il est juste là vraiment pour se faire boulotter par le requin puisque il n'a pas de dialogue pratiquement de tout le film. C'est l'assistant du docteur. Mais il monte quand même sur le bateau et on sait très bien qu'en montant sur le bateau, de toute façon,
c'est une connerie.
C'est une connerie pour lui et qu'on le reverra bientôt plus. et oui, je disais une petite scène qui est assez marrante, c'est que il y a quelques clins d'œil aux Dents de la Mer quand même dans Orca.
Ah oui, bah oui.
Puisque au départ la première scène du film, en fait, le fameux Ken dont on parlait, est à deux doigts de se faire manger par un requin blanc. Mais finalement, c'est l'orque qui dégomme le requin blanc.
Voilà,
et qui, au départ, l'orque est animé de bonnes intentions.
Ouais. Mais non, mais ceci étant, c'est d'ailleurs aussi une référence. Hein, c'est-à-dire que, effectivement, l'orque dégomme le requin blanc. Pourquoi ? Parce que c'est véritablement, dans le règne animal, le seul réel prédateur du requin dans la mer. Et c'est d'ailleurs pas anecdotique. C'est d'ailleurs pas anecdotique, effectivement, si le bateau sur lequel montent Brody, Quint et Hooper dans les Dents de la Mer s'appelle Orca.
Exactement.
Voilà, c'est le seul prédateur naturel du requin dans son milieu marin.
Et donc, d'ailleurs, en parlant de milieu marin, il y a quelque chose aussi qui est moyennement réussi dans le film, c'est qu'on sent qu'il y a beaucoup de scènes en bassin. C'est-à-dire, il y a beaucoup de scènes de l'orque, ça se voit, c'est tourné en bassin, et du coup, ça se raccorde mal avec les scènes de pleine mer, au-delà de certains effets spéciaux qui ont quand même assez mal vieilli. Néanmoins, moi, je trouve que la fin est quand même très réussie parce que je ne sais pas s'ils sont vraiment allés tourner dans la banquise, mais en tout cas, le studio qu'ils ont utilisé et les paysages de fin quand le bateau est pris dans la banquise sont plutôt réussis à ce niveau-là, même si l'ultime fin.
Ouais.
C'est quand même
c'est pour ça que tu m'as fait, c'est pour ça que tu me voyais te regarder avec des grands yeux.
Avec des grands yeux.
L'espèce de ping-pong de capitaine sur la banquise avec vas-y, je te jette le capitaine en l'air, je te mets un coup de queue et il atterrit il s'empale la tête contre un iceberg. Je suis pas sûr
c'est vrai que la fin est plutôt ratée à ce niveau-là.
Ouais.
On notera aussi dans les effets spéciaux, alors j'ai trouvé un bon usage il y a beaucoup de maquettes, mais ça passe bien.
Ouais, je suis d'accord.
Les proportions de l'orque et tout sont plutôt assez bien respectées en général dans les scènes. Donc il y a un vrai travail de bonne prod et une bonne production de ce film, mais il y avait quand même quelques moyens, quoi. C'est juste dommage qu'ils aient voulu à ce point-là vouloir nous faire à tout prix gober que l'orque était capable de ça. Ça finit par être pesant.
Je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, l'intérêt, il est plus justement dans le traitement qui est fait du capitaine. En fait, qu'il se retrouve un peu. En fait, il part bien en tête avec l'idée de faire du fric et d'un seul coup, il réalise ce qu'il a fait et il se retrouve bouffé par la culpabilité et d'une certaine manière, c'est lui-même qui va effectivement se jeter dans la gueule du loup et qui va à la mort.
C'est lui qui est la clé de l'histoire et qui va résoudre lui-même l'histoire et la tension qu'il a créée, parce que c'est le seul à pouvoir apporter une réponse à l'orque.
Ouais.
Et il est dans un destin inéluctable.
C'est ça.
On sait qu'il n'y échappera pas et lui commence finalement à travers le film à s'en rendre compte qu'il va pas pouvoir y échapper.
Oui, tout le long du film, en fait, il y a une progression du personnage vers ça, en fait, vers ce côté, je finis par accepter le truc, et voilà, et c'est un peu les cinq étapes, tu vois, les cinq étapes du décès, c'est-à-dire que t'es d'abord dans le déni, le refus, voilà, et tu finis par l'acceptation.
Et il accepte. Donc voilà, Orca, un film alors qui se discute, mais qui a vraiment de bons côtés, qui est au niveau du scénario, qui essaie de se distinguer de Jaws, même si c'est un pompage et c'est un film de poisson qui tue, voilà, clairement. De très bonnes choses dans les personnages, dans leur caractérisation, dans cette histoire de vengeance à l'envers, de Moby Dick à l'envers. Et puis, ce côté quand même un peu kitsch à plusieurs reprises, notamment parce que l'orque qui pleure, l'orque qui est à la larme à l'œil et tout, et l'orque qui est machiavélique à ce point, bon, ça finit. On a vraiment du mal à le gober, c'est le cas de le dire, même si lui boulotte pas mal de gens dans le film. Mais voilà, c'est un film qui mérite encore d'être vu aujourd'hui, je trouve, Orca. Petite dernière chose que j'allais oublier. mais ça rajoute la petite touche de kitsch, c'est que c'est quand même une musique d'Ennio Morricone.
Ah mais oui, carrément.
C'est quand même pas n'importe qui fait la musique.
T'as entièrement raison, et d'ailleurs, c'est assez bizarre, hein, parce que finalement, ça passe pas mal, mais t'as quand même un peu l'impression d'avoir un western sur mer. Hein. Le démarrage est quand même un peu étonnant.
Ah bah, c'est Morricone fait du Morricone. Et alors, il y a du très bon, mais exactement comme dans le film, il y a aussi du très mauvais, parce qu'il a écrit une chanson pour ce film qui s'appelle « My Love, We Are One ». Et donc, My Love, We Are One, c'est la chanson qui passe à la fin. Et en fait, c'était un truc hyper sirupeux, qui en rajoute une couche de kitsch. Ouais. Et voilà, donc à travers My Love, We Are One, c'est un petit peu Lorque qui parle de sa femme. C'est Nolan qui parle de la sienne. C'est Lorque et Nolan qui finissent finalement par se comprendre, qui développent une sorte de relation amoureuse un petit peu bizarre. Mais cette chanson, elle enfonce le clou du kitsch à 200%. D'accord. Et le film se finit comme ça. Et notre séquence aussi, du coup.
Mais tout à fait. Et on va passer maintenant à la séquence Ridiculte.
Ridiculte.
Ils sont très étranges. Très cons et très étranges.
Pour ce Ridiculte, on va terminer en beauté. On termine avec 5 films, hein, avec Jaws 3 et 4, avec Bait et avec La mort au large, Cruel Jaws.
Oh, on a été gourmands comme les requins, j'ai envie de te dire. Mais d'un autre côté, des nanars à foison, il y en a dans le genre.
Ah bah oui, d'ailleurs c'était même un genre, c'est le nanar, c'est le genre d'excellence du film de requin quand même. Hein. C'est là où on en retrouve le plus, parce que des très bons films de requins, il n'y en a quand même pas beaucoup.
Bah oui, parce qu'on le disait, on le redit, à la base, un film de requin, c'est quand même un matériel fragile, parce que l'histoire, elle tient sur le coin d'une table. Donc les films qui réussissent, c'est ceux qui réussissent à apporter quelque chose, soit dans les personnages, soit dans le traitement, soit dans l'action en elle-même, et puis il y en a qui passent à côté de tout. Et donc on va commencer peut-être par les successeurs donc de l'original, c'est-à-dire que des Jaws, il y en a eu plusieurs. Il y a eu Les Dents de la Mer 1, Les Dents de la Mer 2, qui est de bonne facture.
Dont on aurait pu parler, mais on s'est censuré parce qu'on n'avait pas le temps. Mais effectivement, ça fonctionne bien. Ouais. C'est dans la lignée du premier. Ça reste de très bonne facture, comme tu le dis.
Voilà. Et donc, ça commence à se gâter à partir de Jaws 3.
Ouais.
Donc, Jaws 3, c'est un film de 1983 qui est réalisé par Joe Alves. Et alors, Joe Alves, il était, il faut le savoir, il était chef d'écho quand même sur le premier Jaws. Il a été chef d'écho sur Rencontre du Troisième Type, sur Jaws 2, sur New York 97, et il était réal de deuxième équipe sur Jaws d'ailleurs. Donc le type s'y connaît en film de requin quand même, et il décide de faire le troisième. Donc, Jaws 3, dans la série des Jaws, faut le voir un peu comme la tentative de faire un blockbuster. Il y a plus de moyens, puisqu'il a un budget assez conséquent. Et puis
c'est un film en 3D.
Film en 3D, tout à fait.
Et enfin, un film en 3D, ce qu'on appelait film en 3D à l'époque. C'est-à-dire, c'est un film, et puis il y a 4 scènes en 3D.
Voilà. Et puis, c'est de la 3D, non pas immersive, mais c'est vraiment de la 3D relief en tant que tel, hyper relief, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sortent de l'écran.
C'est ça.
Sauf que, bon, pour la plupart d'entre nous, on l'a pas vu au cinéma, on l'a vu sur le petit écran.
Mais c'était le genre de film que t'allais voir avec des jolies lunettes en carton, là, avec un œil rouge, un œil bleu.
Un œil rouge, un œil bleu, voilà. Ouais. Et donc, Jaws 3, du coup, quand on le voit à la télé, il y a des scènes très bizarres, puisque la 3D n'est pas bien rendue, et ça fait un effet un petit peu bizarre. Mais je ne doute pas qu'en 3D, en vrai, quand il est sorti, il devait y avoir un petit effet sympa. Le scénario de Richard Matheson, donc je ne suis pas n'importe qui Richard Matheson, puisqu'il a fait L'homme qui rétrécit ou Je suis une légende. Et au casting, on retrouve qui ? On retrouve Dennis Quaid.
Ah, tout à fait.
Hein, voilà, un acteur qu'on aime beaucoup parce qu'il a fait quand même un certain nombre de films très connus des années 80, dont L'aventure intérieure.
Fréquence interdite, Footloose, Cœur de dragon.
Cœur de dragon.
Midway.
Récent. Non, non, c'est un acteur solide et qu'on.
Et le mythique Ennemi.
Ennemi Mine, qui raconte l'histoire d'un astronaute, spationaute, qui se retrouve sur une planète avec un extraterrestre, et qui doivent cohabiter ensemble. Et
qui est
joué par
Lou Gossett Jr. Qui lui aussi fait partie du casting.
Et qui est un acteur que tu aimes beaucoup.
Je l'adore.
Parce qu'on vous avait déjà parlé de lui dans un épisode précédent, d'ailleurs.
Pour un certain temple d'or.
Exactement. Dans le casting, on retrouve aussi un acteur plutôt de série qui était connu pour Manimal et qui a joué
son point faible.
Mon point faible, et qui jouait dans la mort sur le Nil, l'adaptation d'Agatha Christie, donc le fameux Simon
Corkindale. Manimal, quoi, on l'appellera Manimal.
Voilà, Manimal. Voilà. Et donc qui joue le chasseur de requins dans ce troisième opus. Donc Box office, quand même, il fait 88 millions de dollars de recettes aux États-Unis. 15e recette de l'année.
Rien que sur le nom, de toute façon, ça fait rentrer des gens dans les salles. Hein. Tu signes Les Dents de la Mer, forcément, il y a des gens qui viennent voir. Hein.
Et donc, quand même, plus de 1 150 000 entrées en France. Donc, il a marché quand même. Hein. On peut pas le dire. Mais, alors, pourquoi Jaws 3 n'est quand même pas un très grand film de requins? C'est que, pour plusieurs raisons.
Ouais, bah je vais vous faire
le pitch. Peut-être.
Ouais, je vous fais le pitch et puis on va regarder ça. Mais c'est vrai que il y a du pour et du contre quand même. Hein,
c'est vrai.
Bon, mais pour vous pitcher le truc assez rapidement. On reste de toute façon dans l'histoire de la famille Brody parce que les seuls qui ont des problèmes avec des requins quand même, c'est les Brody.
Donc, globalement, oui.
Voilà. Donc, évidemment, papa n'est plus là. Les petits Brody ont bien grandi. Hein, parce que papa, lui, il s'est retiré dès le premier. Hein. Il n'est pas déconné quand même. Il n'a plus jamais voulu jouer dans un Jaws. Mais les petits Brody, eux, ils ont grandi. Et maintenant, Michael, lui, travaille dans le tout nouveau SeaWorld qui vient à peine d'ouvrir. Et son frère Sean, qui est quand même un peu traumatisé avec l'eau, vient lui rendre visite pour des vacances, probablement. Et forcément, quand les Brody sont réunis près de l'eau, qu'est-ce qu'on voit apparaître au large ? Un aileron.
Ça attire le squale.
Évidemment. Et donc, le parc propose des jeux, des spectacles de dauphins, des danseuses aquatiques. Il est équipé d'un superbe complexe sous-marin pour pouvoir observer la vie des poissons. C'est forcément un superbe terrain de jeu pour le requin qui vient de subrepticement rentrer. On ne sait pas trop par où il est passé. C'est un peu un requin Arsène Lupin. Hein. Il arrive à se faufiler dans un coin du lit, machin, et il atterrit là-dedans. Et bien sûr, il va faire un carnage. Et donc, l'équipe de ce SeaWorld et l'homme qui fut jadis Manimal arriveront-ils à trépaner ce salaud de requin ?
Alors, vous notez que bien sûr que oui, ils arriveront à le trépaner, mais dans des conditions qu'on expliquera tout à l'heure. Ce qui est intéressant, pour les points positifs de ce film, c'est qu'on déjà, on disait tout à l'heure, il y a encore plus de budget que dans les deux précédents. On change de contexte, donc on essaie de renouveler. Ça ne se passe plus à Amityville, la petite station balnéaire.
Non, c'est pas Amityville. C'est Amity Island. Amityville, on en parlera, Amityville, dans un truc sur les maisons hantées.
Aussi, il y a des requins. Mais ça ne se passe plus à Amity, donc. Puis c'est vrai que dans les Dents de la Mer, on dit Amity.
Ouais, c'est vrai.
Mais je l'ai francisé, donc Amityville, voilà, pardon. On ne trouve plus non plus Brody, comme tu disais, parce que lui, il a fait les deux premiers, puis il s'en est allé. Donc on n'entend plus parler de lui dans le troisième. Donc plus de Roy Scheider. Il y a un peu plus d'humour, il y a un peu plus d'action. Et donc l'humour, il est à peu près aussi lourd que le requin, puisque là aussi, hein, le requin est encore plus gros. À chaque épisode, il est encore plus gros que le précédent. Donc c'est une vraie menace, ce requin. Voilà, mais après, un élément, alors je peux parler de la fin tout de suite, mais moi, il y a une scène culte dans ce film que j'ai toujours aimé, voilà, qui du coup repêche un peu le film, si je puis dire.
Rien que ça.
C'est qu'à la fin du film, donc, pour chasser le requin, donc Simon Mac Corkindale, je vais y arriver, donc le chasseur de requins, met une combinaison toute rouge pour l'attirer encore plus. Et lui, bon, il est très sûr de lui pendant tout le film. Il va le choper, ce requin.
Ouais.
Bon, ça se passe pas exactement comme prévu, puisqu'il se retrouve à attirer le requin dans une espèce de cage ou de piscine qui peut se fermer. Bref, le requin le poursuit, lui il glisse, il arrive pas à rentrer. Et en fait, c'est assez remarquable parce que le requin le happe. C'est-à-dire qu'il ne le mange pas, il ne le grignote pas, mais il le laisse coincé dans sa bouche. Mais moi, cette scène m'a toujours impressionné parce que je me suis toujours dit que ça devait être atroce de mourir comme ça, parce que tu te vois mourir, quoi. C'est-à-dire que t'es écrabouillé, mais t'es coincé dans le requin, tu dois pas mourir tout de suite, tu vois. Ça, c'est, je dirais que c'est l'originalité de cette scène. Les scénaristes ont trouvé une mort originale qui changeait.
Enfin, une façon de filmer, en tout cas, la mort qui est assez originale.
Voilà. Et alors après, donc moi, je retiens ça surtout de finalement des Dents de la Mer 3, parce que sinon le reste, bon, c'est quand même des effets visuels assez foireux. Quand même,
non, ça a très mal vieilli.
Faut le dire, ça a très mal vieilli.
C'est sûr. Non, le seul truc qui est un peu intéressant, si on prend les points positifs, c'est effectivement le lieu. Voilà, le SeaWorld, le truc sous-marin, le fait que tu te retrouves forcément à un moment piégé à l'intérieur et tu peux plus avancer, tu peux plus rien faire.
Donc ça c'est plutôt intéressant parce que tu as une menace qui pèse sur toi, tu es dans l'environnement du requin et un peu prisonnier et retenu, enfin tu es séparé de lui que par une petite plaque de plastique et quand tu vois la taille du bestiau, tu te dis que ça pourrait vite devenir compliqué.
C'est vrai que le plexiglas soit costaud quand
même. Voilà.
Il y a une scène aussi, je sais plus quel personnage est sauvé par des dauphins aussi.
Ça c'est le petit apport, le petit plus du 3. Hein. Il y a des dauphins et les dauphins jouent un rôle protecteur.
Mais c'est là qu'on voit que le film hésite entre l'horreur un peu pure des premiers et le truc un peu plus familial. Ils mettent des dauphins, ça se passe dans un parc. Alors on sent qu'il y a une volonté d'attirer un public plus familial. Pourtant il y a des scènes quand même.
Mais en même temps, t'es sur une logique où tu vas faire un film en 3D et où tu veux faire les scènes les plus impressionnantes possibles sur la 3D. Et donc, du coup, t'as des membres arrachés qui flottent, t'as une tête de poiscaille, t'ouvres par ça quand même, une tête de poiscaille qui flotte. Des choses un peu... tu vas chercher le plus spectaculaire, quoi.
Donc, c'est vrai que Jaws 3, il est très discuté. Hein. Il y a des gens qui le trouvent très bien. Il y a même pendant nos recherches, on a découvert un garçon qui a fait tout un blog sur Jaws 3 et qui, lui, pour X raisons, on pourra aller voir, on vous mettra les références sur le compte Instagram. Mais lui, ça fait des années, en fait, qu'il nourrit une documentation incroyable sur ce film et qu'il considère que non, c'est un bon film pour plein de raisons. Vous pourrez aller voir. Mais bon, en tout cas... il est discutable. Pour nous, Jaws 3, c'est un petit peu le début de la fin de la saga, même si on touche pas encore le fond, puisque le fond,
on va le toucher
avec le suivant.
Ah bah, allègrement, hein. Comme souvent d'ailleurs les films avec Mario Van Peebles, il faut le dire.
Rien que le titre, puisque Jaws 4 s'est intitulé The Revenge, et le sous-titre, cette fois, c'est personnel.
Quelle tristesse. Alors, un peu comme dans Orca, quoi. Cette fois, c'est personnel.
C'est carrément personnel. Donc, c'est un film de 1987, 20 millions de dollars de budget quand même, hein, c'est pas une paille. Et alors, le réalisateur, dont on va même pas citer le nom, sachez que c'est son premier et ce sera son dernier film.
Heureusement, parce que quand même. Hein.
On retrouve qui au casting? Lauren Garry, qui depuis le premier épisode est la femme de Brody, donc qui a là le premier rôle, vous comprendrez pourquoi. Mario Van Peebles.
Quelle horreur, mon Dieu. New Jack City, Le Maître de Guerre, Highlander 3, mais aussi American Battleship, Exterminator 2, Los Locos.
Voilà, donc il avait pas mal commencé sa carrière et puis il est tombé très vite dans les tréfonds du nanar. Et alors quand même au casting, Michael Caine.
Bah oui, improbable.
Donc là, très très improbable. Michael Caine, quand même, pour vous situer le truc, qui a dit, après le tournage du film, quelques années après, il a dit... de toute façon, j'ai jamais vu le film, mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est la maison que j'ai pu me payer avec. Ah, voilà, pour tout vous dire pourquoi il a tourné ce film-là.
Non, mais au moins, c'est franc. Au moins, on le sait, c'est dit, c'est assumé, voilà.
Michael Caine, on va pas citer sa filmographie, mais c'est un acteur toujours vivant aujourd'hui, évidemment, mais qui a une filmographie de dingue.
Ouais.
Et quand il était sur le tournage de Jaws 4, il a même pas pu se rendre aux Oscars pour prendre son Oscar, parce qu'il en avait gagné un cette année-là, quand même, faut le savoir.
Il aurait pu s'absenter, hein, ça aurait pas été très grave.
Le choix financier, moi, il y a des films avec Michael Caine que j'adore, Zulu, par exemple. Oui,
exactement.
L'homme qui voulait être roi, c'est un de mes films favoris avec Sean Connery et lui. Mm. T'as d'autres, mais voilà, c'est un énorme acteur.
Terrain miné aussi avec Steven Seagal.
mais c'est exactement ça, Michael Caine. C'est qu'il a fait des films monumentaux, et puis de temps en temps, il a fait des grosses bouses comme ça juste pour payer ses impôts, quoi. Mais bon, il a toujours été très lucide là-dessus.
Ouais, c'est bien.
Et alors, les plus jeunes le connaissent parce que dans les derniers Nolan, Alfred.
Rise,
Il jouait Alfred.
Et voilà. Et il y a Melvin Van Peebles aussi, hein. Donc, Melvin Van Peebles, dont le nom n'est pas sans nom rappeler l'horrible Mario, hein. C'est son papa. Et il travaille beaucoup avec Fiston, j'ai vu ça, en fait, je m'étais pas forcément rendu compte, mais il a fait effectivement pas mal de films, alors voilà, il est pas mal embarqué par Fiston dans ce tournage.
Et alors au casting, je citerai une dernière personne dont j'aimerais parler pour lui rendre hommage, c'est la petite Judith Barcy,
J'ai vu cette anecdote assez triste, en fait, vraiment, ça m'a... Mais j'imagine comme moi, tu t'es intéressé un peu au casting, t'as cherché un peu qui était qui, et puis, c'est vrai que c'est un truc assez... Moi, j'aime bien savoir que sont-ils devenus quand il y a des enfants acteurs. Bon, alors, par exemple, les deux Brody dans Les Dents de la Mer, ils n'ont jamais rien fait d'autre. Les Michael et Sean Brody d'origine du film n'ont jamais tourné dans quoi que ce soit d'autre qu'un documentaire, je crois, sur
Les Dents de la Mer pour l'un, c'est tout. Et donc Judith Barcy, bah, on a regardé effectivement, et en fait elle est morte à 10 ans, assassinée
par son propre père. Hein. Ouais. C'est une histoire tragique. Ouais. Et alors quand tu revois le film aujourd'hui et que tu la vois dedans, bah, tu peux pas t'empêcher de penser à ça.
Vrai.
Ça fait un petit pincement au cœur.
Je suis assez d'accord.
Voilà, donc petit hommage à cette actrice qui n'aura pas fait grand chose du coup, mais qui aura marqué la pellicule de sa présence dans Jaws 4. Alors Jaws 4, remarquable aussi parce que c'est un des rares films qui a 0% sur Rotten Tomatoes.
Nominé 7 fois aux Razzie Awards en 1987.
C'est-à-dire qu'il a un très très beau palmarès. Alors, tu vas nous faire le pitch vite fait quand même.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah, vite fait. Tout comme le film en fait. Hein. Il a été produit en moins de 9 mois. Hein.
Ça se voit.
Au passage. Ouais. Donc, comment vous raconter ça? Eh ben, quand un méchant requin vient dévorer le fiston de maman Brody, rien ne va plus. Parce que quand même, dans ce film-là, Sean se fait bouffer. Et donc, Michael, l'autre frère, vient chercher Momon pour l'emmener avec lui dans l'île où il bosse, hein, aux Bahamas, histoire de lui changer un peu les idées. Mais, comme le dit le sous-titre de Jaws 4, cette fois c'est personnel. Le requin ne va pas s'arrêter là. C'est pas parce que maman fout le camp aux Bahamas que ça va se terminer. Non. Il la suit. Il la suit parce que ce requin est un psychopathe monomaniaque à moitié déglingo et il a décidé qu'il était temps d'en finir avec les Brody. Et donc, il met le cap sur les Bahamas, histoire de terminer le travail. Bref, vous avez vu, on a là le pitch d'un grand film.
Un grand film. Alors, il suffit de raconter le pitch pour voir à quel point c'est du grand n'importe quoi. Et donc, on a un requin qui traque une famille jusqu'aux Bahamas, alors que ce sont en plus des eaux beaucoup trop chaudes pour un requin. Enfin bon, bref, on a un requin blanc, mais on n'est plus à ça. Après, c'est pas grave, hein, finalement. Le pire, c'est que c'est un requin qui retrouve une famille à qui il en veut jusqu'aux Bahamas.
Alors, on ne sait pas d'ailleurs hein, pourquoi il en veut, parce que on pourrait se dire... Mais en fait, le précédent requin a été tué.
Oui, mais moi, j'ai un petit.
Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est son cousin?
Ouais, moi, je sais pourquoi il en veut. Parce que il est de la lignée des premiers requins, forcément, de Jaws. C'est-à-dire que dans les premiers Jaws 1, Jaws 2, il était petit.
C'est un peu comme les gitans, les requins, quoi. Tu t'en touches un, tu les.
Ah, bah oui, c'est la même famille, quoi.
Ah, ouais.
D'ailleurs, il fait à peu près la même taille. Donc, c'est pas anodin, tu vois. Il est forcément relié génétiquement au premier, sinon il serait pas si gros. Pour moi, il a grandi dans la peur des Brody, tu vois. À chaque fois, en voyant des membres de sa famille se faire.
Quand il était petit, tu veux dire, quand il allait se coucher, on lui disait si tu fais soit un bon requin, sinon les Brody viendront te chercher.
Et donc, gros traumatisme, ce qui fait que ce requin a vrillé complet, il s'est dit bah, je me vengerai des Brody. Enfin voilà, moi je pense que le fond de l'histoire, c'est ça. Et donc, alors, ce film est bourré d'invraisemblances complètes, tout le temps, totales, c'est mal réalisé. Bon, ça, c'est à la limite, c'est anecdotique. Mais par exemple, bon, bah, on sait qu'il y a un des Brody, on nous le dit dans le film d'avant. Qui est aquaphobe comme son père.
Exactement.
Et puis pourtant, tu le retrouves garde-côte.
Oui, mais c'est parce que justement, il veut combattre son aquaphobie, c'est tout. Et l'autre, d'ailleurs, il pêche des cons. On ne sait pas très bien ce qu'il fait. Hein. Il est aux Bahamas, il est là, soi-disant, pour une espèce de doctorat. Mais enfin bon, il est en short, il plonge, il pêche des conques. Il fait le conque aussi.
Au soleil, hein, voilà. Il fait le gros conque. Très bon, tu as raison. Voilà, on a... Donc, plein d'erreurs de raccord, de montage. Il y a une scène où Michael Caine tombe dans l'eau, il sort de l'eau, sa chemise est toute sèche. Voilà. Alors,
il y a aussi un lien entre maman Brody et ce requin qu'elle n'a jamais vu et dont elle ne sait pas d'où elle débarque, mais elle sait qu'il est là.
Ouais. Elle sait que ce requin les traque, et comme le dit le sous-titre, c'est personnel, elle l'a vite compris, parce qu'elle est quand même extrêmement intelligente.
Femme
de Brody, elle connaît bien le requin depuis le temps, quand même.
Ah oui.
Et donc, une invraisemblance de plus, si je puis dire, mais d'ailleurs, à la fin du film, il y a d'ailleurs des flashbacks de scènes du premier, notamment il y a un flashback où on voit Brody, donc le héros, qui tire sur le requin, la fameuse scène de fin du premier, et en fait, c'est une scène qu'elle n'a pas pu vivre puisque ça se passait en pleine mer et qu'elle était restée chez elle à ce moment-là dans le premier film.
On te dit qu'elle est télépathiquement liée à tout.
Voilà.
Pourquoi tu cherches toujours la petite bête comme ça?
Voilà,
là
mais parce que bon, c'est je suis un peu comme ça. Je cherche le détail.
Rationalité là.
C'est même plus un détail. C'est une outrance de ce film. C'est qu'elle est capable de se souvenir de scènes qu'elle n'a pas vécues elle-même. Ça c'est magnifique.
Oui, puis de toute façon, il y a une pompe, enfin, non, excusez-moi, un hommage Il y a une scène justement qui a été vécue par Roy Scheider juste avant qu'il parte pêcher ce gros poisson dans le 1, où il est préoccupé et son fils reproduit les mêmes gestes que lui, oui, à table. Et ben là, on va refaire la même chose avec le petit-fils de Maman Brody et son la petite fille, pardon, et son fils, hein, donc voilà. Et évidemment, elle assiste à la scène émue, voilà, tout comme elle était émue la première fois quand c'était son mari et son fils.
Tu vois que c'est une des très belles scènes du premier Dents de la Mer, celle, bah oui, qu'on aurait pu citer.
Elle est drôle.
Alors ils font à la fois un hommage, mais bon, ça leur permet aussi de gagner quelques minutes de film, ouais, ce qui est toujours pratique quand on ne sait pas quoi raconter. Donc alors il y a une scène aussi incroyable avec, tu vas parler peut-être, non, de la mort, enfin non, de Mario Van Peebles.
Bah, oui, voilà, c'est exactement le mec le plus, dans le rôle le plus improbable qui soit, mais genre il est pas crédible un putain de quart de seconde dans ce rôle de scientifique. Tu vois, le mec, il est là avec avec ses dreads, avec son bermuda, et à faire des blagues à deux balles. Est-ce que vous pouvez croire décemment que ce mec est en train de passer un doctorat? C'est un clown. Donc, il aide pas, évidemment, à ce que le film gagne en crédibilité.
Non. Bah, il fait partie de cette époque où il y avait toujours un sidekick, un black, qui faisait des blagues. Hein, c'est malheureux à dire, ah, mais ouais, voilà, exactement. On le retrouve dans Les Dents de la Mer. Et puis, alors, sachez que normalement, le personnage de Mario devait mourir. Mais sauf qu'aux projections test désastreuses, il y a eu un truc encore plus désastreux, c'est que les gens ne voulaient pas qu'il meure. Donc ils se sont dit, comment on va faire? Et en fait, c'est une de ces scènes où alors le type est complètement emporté par le requin, il est dans la gueule du requin, etc. Et pourtant, il revient à la fin.
Bah, ils avaient déjà tourné la scène, donc il fallait bien trouver un moyen d'eux.
Donc voilà, on nous explique qu'en fait, il s'était mis une plaque de fer qui l'a protégé. Enfin bon, truc improbable, le gars ne meurt pas grâce à ça. Mais dans ce film, on n'est plus à une invraisemblance près, parce que c'est du grand n'importe quoi. Et preuve en est encore peut-être le pire du pire dans ce film, c'est aussi la scène de fin. Alors je me souviens très bien, moi j'étais allé voir ce film au cinéma quand il est sorti, et j'avais même traîné ma sœur, alors Caroline, si tu nous écoutes, je te passe un petit bonjour, parce que...
Et puis surtout, je passe-lui tes excuses les plus plates
quand même. Et mes excuses, parce que ça fait partie des films que je t'ai traîné, que je t'ai obligé à aller voir avec moi, parce que j'étais plus jeune que toi et que j'avais besoin de toi pour m'amener au cinéma. Et tu as supporté ce film jusqu'au bout. T'as même dû me dire à la fin du film que t'avais trouvé ça bien, même si évidemment tu mentais. Mais moi, avec mes yeux d'enfant, de jeune adolescent sûrement à l'époque, j'ai dû trouver même le film bien en sortant du cinéma, j'imagine. Mais j'ai jamais compris la fin, même à l'époque. Je me souviens très bien de me dire, mais comment le requin meurt? Je comprenais pas ce qui se passait en fait, parce que la scène de fin, en fait, le requin percute le bateau piloté par la femme de Brody et il explose.
Exactement.
Et on ne sait pas trop ce qui se passe.
Mais si, mais c'est parce qu'en fait, à un moment, bon, alors déjà, moi, à un moment, bon, on voit quand même Maman Brody et il y a une espèce de scène délirante où elle décide finalement de faire face au requin et de faire face à sa destinée, ouais, et de lui péter sa gueule de requin.
Complètement.
Voilà. Ouais. Et donc, et on a une espèce de flashback de tous les extraits de souffrance de la famille Brody, tu vois, causés, oui, par ces salauds d'animaux à ailerons, quoi, tu vois. C'est quand même génial. Et elle se dit, ça suffit maintenant, on va y aller, je vais lui péter sa gueule. Et donc, elle y va. Et en fait, je pense que avant, justement, quand ils ont essayé de buter le requin, ils ont joué avec des explosifs. Et il y en a un qui est resté dans sa gueule. Ah. Et en fait, elle est prone.
Elle est prone parce que, ouais, oui,
c'est ça. L'explosif à travers la gueule du requin, parce qu'elle le sait.
Alors oui. C'est une hypothèse. Oui. C'est une hypothèse intéressante. Je dois t'avouer que moi, j'étais resté en tête avec cette scène que je ne comprenais pas, et donc je suis allé un petit peu me documenter. Il se trouve que la version cinéma qui est sortie,
ouais,
était une version raccourcie, cutée, ouais, parce que les producteurs trouvaient que c'était plus spectaculaire qu'il explose. Et donc il y a une version qu'on peut trouver sur le net qui est un petit peu plus longue. On comprend un petit peu mieux, mais c'est un peu ce que tu expliques, c'est que dans le film, il lui balance il lui lance des charges électriques.
C'est ça.
Donc, du coup,
ah oui, c'est ça, c'est
quand ils envoient la décharge électrique, oui, le requin se cabre un petit peu, oui, en sortant de l'eau, et ils le font en plusieurs reprises. Et donc, elle, quand elle arrive avec le bateau et la proue du bateau, qui n'est pas si haute, hein, par rapport au niveau de la mer, ils appuient sur le bouton, le requin, oui, se cabre, et donc, comme elle arrive, la proue du navire l'empale, Bon, mais ça explique pas pourquoi il explose.
Coïncidence miraculeuse. Voilà.
Mais on va dire qu'il explose parce que t'as raison, peut-être qu'il a bouffé un explosif aussi.
Oh bah de toute façon, si t'en es à trouver une certaine logique, je vais vous passer un extrait tout de suite hein, où on voit quand même le requin, vous allez entendre le requin, oui. Hein, ce qui est quand même assez hallucinant hein, pour un animal qui n'est pas doté de cordes vocales, je trouve qu'il crie plutôt bien. Écoutez. Bon, voilà, donc tu vois, voilà. Mon bon Tom, franchement...
Ce râle de douleur voilà. De requin, c'est le seul requin d'histoire du cinéma qui fait gueule. Du bruit, qui gueule, quand même.
C'est quand même magique. Donc, tu vois bien qu'il ne faut pas non plus chercher trop de logique là-dedans. Hein. Je te rappelle qu'on a une meuf qui est télépathe et qui est connectée à un requin qui veut se venger et qui est capable de faire des milliers de kilomètres parce qu'on lui a laissé l'adresse où allaient les brodies pour leur péter la gueule. Enfin, donc, bon...
Bon, voilà, on n'est plus à une influence près dans ce film. Bon. Ce film n'est que ridicule. Il a tout à fait sa place dans notre rubrique. Et donc, d'ailleurs, hein, c'est un peu le film qui mettra fin à la saga des Dents de la Mer parce qu'il a été tellement catastrophique.
Ah ouais, ouais.
Il a tellement
il a épuisé le genre.
D'argent, il a complètement épuisé le genre. Donc après les Dents de la Mer 4, c'en est fini de la saga des Dents de la Mer.
Enfin, on va avoir un petit intervalle et après on va voir un film qui n'a lui pas hésité à prendre le titre des Dents de la Mer 5
parce que tout à fait.
Voilà.
Tout
mais fait. Avant ça, on va d'abord vous parler d'un autre nanar. Alors, est-ce que c'est un nanar? Est-ce que c'est un film ridicule ou pas? En tout cas, on va en discuter tout de suite en parlant, il s'agit de Bait. Alors, donc, du coup, imaginez deux secondes. Vous faites vos courses peinards à la supérette du coin. Hein, bon, là, déjà, deux méchants garçons débarquent et braquent la supérette. Ils exigent que le directeur ouvre le coffre. Elle est quand même mal emmanchée cette journée, hein, on est d'accord. Hein. Mais c'est que le début. Parce que le hold-up n'est même pas terminé, hein. Il est interrompu par un tsunami qui fout quand même un sacré bordel. Hein. Et là, vous dites, on est déjà assez haut dans l'échelle du « j'aurais pas dû me lever ce matin hein. ». Eh ben ouais, mais c'est pas suffisant et c'est pas terminé parce que vous vous rendez compte que dans la flotte qui est entrée dans la supérette, il y a quoi? Eh ben, il y a du requin, mangeur d'hommes, affamé. Et alors là, c'est la totale. Bref, le reste est d'une simplicité biblique, hein. Ça peut se résumer en quelques mots. Survie donc à ça, connard.
Voilà, survie. Il y a deux requins dans ce film, parce qu'il y a des gens qui sont coincés.
Il y a un requin par étage.
Supermarché.
Comme ça, tout le monde est bien servi. Alors, voilà. J'ai mis longtemps à m'en rendre compte, parce que pendant un moment, je me disais, mais comment c'est possible que le requin soit en bas et en haut? Est-ce qu'il prend l'ascenseur?
Prend l'escalator, peut-être.
Ouais, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est quand même bizarre.
Mais non, ce sont deux requins, donc il y en a pour tout le monde. Il y en a pour ceux qui sont restés coincés dans le sous-sol avec les voitures, et puis il y en a pour ceux qui sont restés coincés avec, comme tu le dis, les criminels à l'étage supérieur. Alors, Bait, c'est un film de Kimball Randall de 2012. Donc, le type est quand même un chevronné, un réalisateur assez chevronné qui a été en deuxième équipe sur pas mal de films. Et on retrouve au casting Gillian McMahon qui était l'acteur principal de la série Nip Tuck.
Ouais, on aime bien Nip Tuck.
Quelques années, voilà.
Il a fait les 4 Fantastiques aussi, mais là c'est à peu près tout ce qu'il a fait. Hein.
Ouais, ça a été peut-être le premier rôle et le dernier qu'il a eu au cinéma dans des films d'envergure. Pourtant, franchement, il aurait pu faire quelque chose.
Ouais, ouais.
Et alors, ce qui est remarquable,
les autres acteurs, par contre, sont pas très très
non.
connus. Hein.
Non, les autres acteurs.
Voilà, il y a des gens qui ont fait quelques films, mais c'est plutôt des jeunes acteurs, des débutants. Hein. Ils n'ont pas des filmographies de ouf. Hein. Tu sens qu'effectivement, ils sont plutôt sur la phase ascendante de leur carrière.
Ouais, quoi, ouais, pourtant, on ne les a pas vus dans chose depuis, j'ai l'impression.
Pas tous, non. Mais il y en a certains, moi j'ai regardé, il y en a certains qui ont pas mal de projets en préparation, en fait. Donc tu sens qu'ils montent en puissance, en fait. Hein.
On remarquera aussi que Bait, il a été produit et coécrit. Et c'est ça qui est
intéressant.
Par Russell Mulcahy. Mm. Et Russell Mulcahy, pour certains le savent, mais c'est le réalisateur d'Highlander, un film culte avec Christophe Lambert, vous savez, avec les immortels qui s'affrontent pour être le dernier.
Le
Quickening, tout ça. Il avait réalisé Razorback aussi.
Ouais, ça c'était bien.
Il a réalisé quelques temps après aussi The Shadow, moi qui est un film que j'aime bien. Mais bref, c'était un vrai réalisateur prometteur, Mulcahy, même s'il a un peu disparu après des écrans. Et donc il produit ce film. Mm. Et c'est certainement pour ça qu'en fait Bait Le pitch peut laisser penser que ça va être un énorme nanar, et c'est pas tant que ça, finalement.
Eh ben, en fait, ouais, c'est ça qui est étonnant dans ce truc, c'est que moi, je l'avais pas vu, toi non plus, hein,
non,
Tom.
Non.
Et on s'est dit, tiens, on s'est répartis tous les films qu'on devait voir, et souvent, voilà, on en explore quelques-uns qu'on n'a pas vus, et moi, j'ai vu ce truc, et j'ai dit, Tom, putain, regarde ça, quand même, ça vaut le coup. Mais c'est vrai que le pitch de départ, quand même, le tsunami des requins au rayon PQ de ton Carrefour City, c'est quand même ça range le truc irrémédiablement dans le côté nanar, quoi. C'est un film de série B, un film de genre. Et en même temps, bah, les personnages aussi, on peut le dire, hein, sont quand même assez caricaturaux, assez ridicules. Tu vois, les hold-uppers, là, les braqueurs, ils sont mais débiles. On a pas mal de poncifs avec la nana bimbo qui se fait limite sauter dans la bagnole, dans le parking, par le capitaine de l'équipe de foot, le mec un peu coincé. Mais en même temps, à partir du moment où tout ça a eu lieu, où c'est installé, les requins sont là, et on se retrouve dans des étages aux trois quarts immergés et des gens qui doivent survivre, eh ben on se retrouve dans un truc qui fonctionne bien derrière.
Ouais, absolument. Ça, on rentre dans l'histoire.
Ouais. Il y a une vraie bascule à ce moment-là, en fait.
Les effets spéciaux sont plutôt bien, les requins sont plutôt bien faits, donc on y croit, même si c'est dans un contexte improbable. Et puis, il y a une tension tout au long du film, et ça marche plutôt bien. Donc on est un petit peu embêté, parce que on est dans notre rubrique ridicule, et ce film-là, il n'est pas si ridicule.
Il aurait presque pu se retrouver en 16 disculte. En fait, la deuxième partie fonctionne plutôt bien, mais c'est vrai que quand on voit la première, on est quand même... Et puis c'est pareil, on a oublié de le dire, mais on ouvre... On sait que on ouvre sur un mec qui est soi-disant sauveteur en mer, qui voit son meilleur ami se faire bouffer par un requin, sa fiancée dont c'était le frère qui pique une crise, qui part au Japon avec je ne sais qui, qui revient d'ailleurs avec un mec.
Le film part un peu mal.
C'est chargé dès le départ là, et le mec est évidemment devenu agoraphobe, c'est pas drôle sinon, hein, et il préfère du coup plutôt que être maître nageur sauveteur être plutôt chef de rayon
dans le supermarché
du coin tu dis
c'est vrai que le film est un peu ça part mal et puis ça se rattrape quand on commence à être au cœur de l'action.
Je pense que c'est typiquement effectivement le genre de c'est ce que tu disais, le mec a eu une idée, il s'est dit tiens ce serait marrant qu'il y ait un requin qui se balade dans les rayons d'une supérette et une fois que il a fallu une première demi-heure rocambolesque pour arriver jusque-là, puis une fois qu'il y est, il est bien.
Voilà, et je pense que le budget n'est pas si ridicule que ça, parce que ça se voit à l'écran qu'il y a quand même quelques moyens.
Les acteurs, une fois qu'ils sont dans leur rôle de mecs qui doivent s'entraider pour survivre, ça fonctionne plutôt bien. Avant, je vous dis, la caractérisation et des braqueurs et du directeur du magasin et de tous les...
Alors, il y a aussi des personnages, on pourrait penser qu'ils vont mourir et ils ne meurent pas aussi. Certains, on sait très bien qu'ils vont disparaître, mais d'autres, on se demande jusqu'au bout si ça va être le cas, donc ça surprend un petit peu. Voilà, c'est intéressant quand même. Donc Bates, si vous avez l'occasion, vous pouvez le voir sur YouTube, par exemple, il est dispo.
Ouais, honnêtement, ça vaut le coup d'œil, hein. Franchement.
Et on va.
Alors maintenant, on va voir un truc qui nous a fait presque perdre un œil. Hein.
Exactement. On aurait préféré être bouffé par un requin, je pense, plutôt que d'aller voir jusqu'au bout des deux prochains films dont on va parler.
On en a deux là. On en a deux. C'est du bon, c'est du gros, c'est du lourd. C'est La Mort au Large, suivi de Cruel Jaws.
Alors, La Mort au Large. Donc, c'est un film. C'est un film qui sort dans les années 80, puisqu'il sort, je crois, en 1981. Je ne me suis pas noté la date exacte de sortie du film. Mais c'est un film qui surfe sur Jaws.
Attends, je vais vous faire le pitch. Je vous pitch uniquement les différences entre ce film et Jaws et Jaws 2. Hein, donc, voilà.
Voilà.
Maintenant, on peut y aller.
Voilà, donc, effectivement... aucune différence entre La mort au large et Jaws 1 et Jaws 2, puisque La mort au large, c'est un ignoble pompage des dents de la mer. Donc c'est un bis italien, ce qu'on appelle un bis italien, c'est-à-dire que c'est un producteur italien qui a senti la bonne affaire.
Et mais
qui
on dit, est au-delà du bis, quoi.
Produire mon film de requin.
Le mec, il prend carrément des scènes, il les rejoue.
Ah ben c'est exactement ça. Alors parlons-en un petit peu. Donc c'est un film de Enzo Castellari, qui est un réalisateur de western spaghetti, qui avait fait par exemple Tuez les tous et Revenez seul.
Voilà. Qui des a films fait avec des titres.
Des films avec des titres.
Un message.
Comme ça, un message. Qui est un solide artisan du cinéma italien de ces années-là, et donc qui décide, à qui on demande plutôt, c'est un film de commande, de faire un film de requin. Et effectivement, c'est une copie conforme et non conforme, si je puis dire, de Jaws et de Jaws 1. Il a été tourné aux États-Unis en Sicile. Ça s'appelait, le titre original, c'est L'ultimo squalo en italien.
Ouais,
et il a quand même rapporté 18 millions de dollars aux USA rien que le premier mois de son exploitation. Donc c'est quand même une...
Ah, la tristesse.
Une bonne affaire. Sachez quand même que ce film s'est appelé Great White aux
Mais
États-Unis
pourquoi,
quand
voilà,
il est sorti.
Pourquoi il a rapporté 18 millions de dollars aux États-Unis? C'est aussi parce que il a pas hésité à carrément s'appeler Jaws 5.
Il y a plusieurs versions sur cette histoire.
En
mais
tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a été attaqué pour plagiat
exactement,
et retiré de tous les films de cinéma aux US.
Là où t'as, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que ils ont joué sur le malentendu, si je peux dire. Et donc en Europe, en France, il est sorti avec une affiche qui reprend le requin des dents de la mer. Et sur laquelle ils ont mis de manière très subtile une planche à voile qui porte le numéro 3. Donc, voilà, sur un malentendu, penser qu'on va voir Les Dents de la Mer 3, par exemple. Mmh. Et donc, aux États-Unis, il l'avait carrément sorti avec le titre Jaws, je crois. Donc, ça finit par être interdit par la boîte de prod de l'original, qui a quand même été entendue par la justice. Mais bref, ça a joué sur le malentendu. En Norvège, il est sorti comme Son Jaws. Et en Espagne, Tiburón 3. Parce que Les Dents de la Mer s'appelle Tiburón, et Les Dents de la Mer de Tiburón 2, et là, Tiburón 3, donc voilà. Et donc, c'est exactement la même histoire, puisque nous avons un chasseur de requins, nous avons un marin un peu rustre qui va chasser le requin. Le héros est un écrivain un peu spécialiste des requins, mais qui s'appelle Peter Benton.
Oh, dis donc, voilà. Ça me rappelle quelqu'un.
Peter Benton, qui fait écho à Peter Bentley, qui a écrit le requin, qui a écrit le livre original. Alors il y a un méchant, il y a l'équivalent du maire des Dents de la Mer, mais lui il est sénateur, je crois. D'ailleurs, il ressemble à Matthew Stone, je sais pas si tu te souviens de la série Matthew Stone, c'est exactement le moustachu avec les cheveux longs, tout. J'ai cru que c'était Matthew Stone. Donc lui, il est embêté parce qu'il veut à tout prix faire une course de voile, une régate, donc il est embêté par ce squal, évidemment. Et donc on retrouve tout, mais en moins bien.
C'est ça.
Et avec, comme souvent dans les films bis italiens, un art de la maquette assez prononcé.
Ouais. En fait, c'est. Allez-y, regardez-le comme une bizarrerie, quoi. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça peut être drôle si vous vous dites un jour, tiens, je vais me regarder Les Dents de la Mer. Regardez celui-là dans la foulée parce que c'est assez marrant, quoi.
Ouais.
Mais c'est
tout pareil,
ça supporte
mais avec
pas
des moyens.
Ça supporte pas la comparaison, quoi. C'est comme c'est un film en carton à côté des Dents de la Mer.
Ah,
et
comme le requin.
Mais exactement. Donc voilà, mais c'est ça fait partie des nombreux films pompés directement. Alors là, celui-là il est carrément pompé totalement sur Les Dents de la Mer, et c'est ce qu'on peut produire de pire, en fait, je pense, à peu près, hein.
Les acteurs
sont inexistants, jouent comme des quiches,
voilà,
ils n'ont jamais rien fait de leur vie. D'ailleurs, ce film a enterré la carrière de tout le casting.
Alors justement, une petite anecdote un peu triste aussi, là encore une séquence hommage, sur un des acteurs qui s'appelait Vic Morrow, qui joue un peu l'équivalent de Quint, tu sais, le pêcheur. Et figure-toi que ce gars-là, il avait commencé une carrière italienne, plutôt correcte, et puis il sombre dans l'alcoolisme et compagnie, et figure-toi que le salut vient en 1982 de La Quatrième Dimension, John Landis, qui fait un film cinéma sur La Quatrième Dimension, qui s'est tiré de la série, et le gars obtient le premier rôle dans une des histoires. Donc, ça allait le remettre un peu sur le devant de la scène. Et figure-toi que dans l'histoire en question, il voyage dans le temps et il se retrouve dans une scène au Vietnam avec deux gamins dans les bras. Et donc, pendant cette scène, il y a un hélicoptère en stationnaire autour d'eux, à 7 mètres du sol. Problème de pyrotechnie, l'hélicoptère se casse la gueule en vrai sur le tournage. Le gars, Vic Morrow, est décapité avec les enfants. Et il termine sa carrière comme ça. C'est atroce, hein, c'est dramatique. Ouais, ouais, quoi. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mince, alors du coup, comme en plus dans le film, il meurt bouffé par le requin, ça, je me suis dit quand même, c'est triste tout ça. Alors voilà, cette petite séquence hommage à Vic Morrow qui nous a quittés dans des conditions atroces, ouais. Tout aussi atroces que sa mort dans le film. Et donc, dans la mort au large, un requin complètement raté, parce que je crois qu'il n'y a qu'une seule position possible. Hein. Je pense qu'il apparaît toujours de la même manière. Il sort comme, comme un bouchon de champagne de l'eau. Ouais. Des maquettes, la scène de l'hélicoptère copiée sur celle du 2, mais avec une maquette complètement ratée. D'ailleurs,
avec la citation qui va bien, hein, on va avoir besoin d'un hélicoptère plus gros. C'est magique, quoi.
Magique, hommage. Voilà, donc allez le voir pour rigoler, vous le trouvez aussi sur YouTube, et il est parfaitement raté, mais il est savoureux pour le plagiat qu'il essaie de faire de l'original.
Et on passe tout de suite à un film qui nous a encore plus fait marrer, hein, parce que celui-là, il va un cran plus loin, et c'est Cruel Jaws.
Cruel Jaws, il est sorti sous le titre de Jaws 5.
Hein, carrément. Pourquoi pas ? De toute façon, c'est un requin. Les quatre d'avant, on ne sait pas trop. Enfin, il y a zéro filiation possible. En même temps, si je vous fais le pitch, je pense que je peux vous faire le pitch de façon encore plus concise que pour La Mort au Large. Hein. Mmh. Parce qu'on va faire simple et efficace. Je vous livre trois références clés. Et vous avez de quoi reconstruire entièrement le film. Jaws 3, La Mort au Large et Roméo et Juliette. Voilà. Et avec ça, vous mettez tout ça dans un shaker et vous me sortez Cruel Jaws.
Voilà, donc c'est très très bien résumé, tu as raison. Un anachronisme dans la mesure où c'est un film de 95, on se demande bien pourquoi il décide de faire un film de requin en 95 après tous les autres et après même le dernier Jaws qui était sorti depuis quelques années. Bon, bref. Et c'est Bruno Mattei qui réalise ce film. Alors, Bruno Mattei, on le connaît bien. Il a réalisé Virus Cannibal, Les Rats de Manhattan, hein, dont on parlera.
Ah oui, ce serait bien.
Zombie
ça.
3. Enfin, le type a fait plus de 50 films. De la comédie érotique, Nazi-spotation, Non-spotation. Enfin, il a tout
mais
fait.
Il fait tout. De toute façon, le mec, il est capable de tout faire à partir du moment où ça peut rapporter un tant soit peu de pognon. Il y va. Et le mec, c'est vrai qu'il a pas de limite. Il a pas de limite dans le genre. Il fait tout.
Ah oui, complètement. Et il a été. Il se dispute la place de pire réalisateur de tous les temps avec Ed Wood. Et alors, moi, je vais vous dire, je pense qu'il est bien pire qu'Ed Wood.
Non, ouais, il y avait de la poésie et du lyrisme dans Ed Wood à côté de ce mec.
Ed Wood, il avait une vraie envie de faire du cinéma il était passionné. Mais alors, lui, c'est juste un faiseur. Il cherche à faire le maximum d'argent et de cachetonner. Ah, ouais. Et donc, ça se passe à Hampton Bay, Cruel Jaws. Et ce qui est intéressant, enfin, ce qui est remarquable avec Cruel Jaws, c'est qu'en fait, la plupart des scènes d'action sont juste pompées, qu'à de le dire, de La Mort au Large.
Ouais.
Hein, et donc, le gars, c'est pas fait chier. Je pense qu'il n'y a pas une scène tournée avec un requin dans Cruel Jaws.
Mais rendez-vous compte, déjà, tu vois, on vient de vous parler de La Mort au Large. Le mec, il ne va même pas pomper du grand film. Non, il va pomper la pompe de la pompe.
Ah oui, c'est ça. C'est que le film, quand j'ai commencé à regarder le film, je me dis, tiens, mais c'est marrant. Première scène du film post-générique, on voit des types qui sont dans une caverne en train de se faire attaquer par un requin. Je me dis, mais c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir vu cette scène il n'y a pas longtemps. Et c'est le pompage total d'une scène de 5 minutes de La Mort au Large. Tout comme la scène de l'hélicoptère de La Mort au Large, il la reprend entièrement dans le film, sauf qu'il fait quelques cuts et qu'on a l'impression du coup qu'il est plutôt habile en montage, on peut pas lui retirer ça. Hein.
Ah bah non, bah c'est quand on n'a pas d'idée et quand on n'a pas d'argent, il vaut mieux être bon monteur.
Alors si on voit pas La Mort au Large et qu'on voit Cruel Jaws, à la limite on y croit. Hein. On peut penser que c'est lui qui a tourné les scènes.
Ah bah moi, indéniablement, j'ai préféré entre les deux, parce que bon... La Mort au Large, évidemment, c'est une pompe, le truc est plutôt moyen, mais ça tient encore debout. Là, on est dans c'est du porte-nawak. Les mecs te mettent quand même, quand les bateaux partent chasser le requin, on a la musique de Star Wars.
Ah oui, c'est vrai, ils pompent même Star Wars.
Rien à foutre.
C'est juste incroyable.
Rien à foutre. Les bateaux sortent du port sur la marche impériale, quoi. Allez hop.
Rien à faire. Je veux dire, le copyright et tout, lui, c'était pas son problème. Il disait, de toute façon, si je peux faire un peu de pognon, vu que le film ne va rien me coûter à produire, ce sera toujours ça de gagner. Il y a un truc qui est perturbant. Enfin, il y a les usages de nuit américaine à tout va. C'est-à-dire que ce sont des scènes qui se passent la nuit, mais qui sont tournées de jour. Alors, ils mettent un filtre pour faire croire que c'est la nuit. Du coup, l'image est pendant beaucoup de séquences, est irregardable. C'est sale.
Non, mais même la première scène, la première rencontre avec le requin, c'est un peu comme ces dates, tu vois, où tout se passe mal, en fait. Il y a rien, tu vois, on comprend rien, on voit vaguement des bouts de dents quand ça attaque le bateau, c'est quand même magique, quoi. Et on se coupe bien la caméra pour montrer que c'est violent, quoi. Oui, donc bah du oui, coup on oui. sait plus où on est, on a le mal de mer parce que vraiment, mais on a rien compris. Et déjà là, si t'es pas complètement débile, dès la première scène d'attaque, tu sais que tu t'es fait vraiment avoir.
Hein, oui, très vite. Je pense que si tu es dans une salle, t'es un peu prisonnier, tu sors pas de la salle. Mais si t'es devant, à l'époque, ton VHS et ton magnétoscope, je pense que tu pouvais arrêter le film tout de suite. quand tu comprends que tu t'es fait bien avoir. Bah, d'ailleurs, tu sais à quoi ça me fait penser? En faisant les recherches, j'ai vu des images de la VHS d'origine.
Ah, génial!
Et donc de la couverture, mais aussi de la quatrième de couve de la jaquette, tu sais, où t'as les images de film.
Oui, oui, oui.
Et alors, là, ça m'a fait marrer parce que tu vois donc un gros plan sur la gueule du requin, évidemment, ouais. tiré de la mort au large. Et tu vois, un gros plan de cet acteur dont on n'a pas encore parlé, mais dont tu vas nous parler, qui bouffe littéralement l'écran dans ce film, et qui est un clone.
Bah, c'est Hulk Hogan, en fait. En fait, c'est pas lui, Hogan. Mais c'est un homonyme de moustache, quoi.
Voilà, c'est ça. Et le type, en fait, alors, c'est Hulk Hogan, mais en plus petit, en moins musclé, enfin bref, mais il a la tronche de Hulk Hogan.
Ah, mais il a une espèce de tronche de viking avec la même moustache. C'est étonnant, quoi. Moi, j'ai été troublé, hein, quand même, quand j'ai vu.
Et le type s'appelle, alors, Dag Sørensen, pour son nom original, donc je crois qu'il a fait que ce film.
Non, c'est Richard. Oui, c'est ça, Dax Sørensen joue le rôle de Richard Dew.
Oui, c'est ça. Il y a deux Dew dans le film, ouais. Il y a le fils et le père, et lui c'est le père. Et donc, pour en revenir à mon histoire de VHS, en fait, tu vois un gros plan de ce type sur la VHS, la couverture, et donc forcément, tu te dis, ok. Ils ont joué à fond l'espèce de la tromperie avec Hulk Hogan plus le requin. Ils se sont dit bon voilà, il y a des gens qui vont croire que c'est Hulk Hogan dans un vrai film de requin.
Bah, bien sûr.
Voilà, jusque là quoi, Bruno Mattei essaie de tromper les gens jusque là quoi.
Ah non mais moi c'est vrai que la ressemblance est quand même assez frappante et du coup moi c'est un peu ce qui m'a fait tenir aussi. Hein, c'est que
j'ai dit à un moment donné, il va passer à l'action.
Il va se passer un truc, il va s'énerver, il va déchirer son t-shirt et il va y aller, il va boxer le requin, il va lui faire une espèce de prise de catch. Je me disais, on va virer sur quelque chose d'intéressant.
Voilà, un match de catch avec le requin. Voilà. Mais non, même pas. Le type, il est dans le film, il s'occupe d'un aqualand avec des dauphins.
Ouais.
Donc, les seuls vrais poissons qu'on voit dans le film, c'est les dauphins, de l'aqualand.
Ah bah, de toute façon, c'est simple, hein. Vous avez le complexe, le complexe aquatique, comme dans Jaws 3, vous avez le maire, l'océanographe, effectivement le shérif, hein, voilà, comme dans tous les Jaws. Vous avez le maire qui veut absolument que le parc aquatique, enfin que tout reste ouvert.
Oui, oui, oui.
Les méchants mafieux qui veulent racheter le parc aquatique aussi. Enfin, vous savez, on prend toutes les on pompe sur chaque épisode un truc intéressant et on en fait un mix, quoi.
Mais il a quand même pompé la scène de l'hélicoptère de la mort au large,
ouais,
qui elle est déjà pas une grande réussite. Il a pompé la scène de la mort au large où des gens sur un ponton se retrouvent isolés parce que le ponton se détache, donc ouais. Il l'a pompé aussi. Il a pompé la scène d'intro avec les héros dans la grotte.
Ah bah attends, il a même pompé, je crois qu'il a même pompé, je vous laisse l'extrait, il a pompé littéralement un extrait hein, de Jaws 2 avec au moment où il s'apprête à partir justement en voile.
Ah, oui.
Ah non, mon père, tu fais toujours ce que ton père te demande. Regardez, écoutez ça, on ne se prive pas, on y va franco.
Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, ça ne marche pas très fort entre ton père et le mien. Je voudrais pas faire quelque chose qui...
Tu fais toujours ce que ton père te dit de faire?
Non.
Bon, alors à 8h, à l'aquarium.
Voilà, donc on ne recule devant rien dans le pompage.
Ah bah, et puis on ne recule devant rien devant le graveleux aussi, hein, parce qu'on vous passe tout de suite un second exemple et vous allez voir que on n'est pas quand même dans de la légèreté poétique. Hein.
Hé, Ronnie, t'as vu ça? Une super nana des nichons comme des melons.
Ah, c'est ça le genre de nana qui te branche, toi?
Et hein? Avoue que c'est excitant.
Ah, ouais.
Là aussi, hein, de l'humour haut de gamme. Tout y passe. Il y a une scène qui m'a fait marrer aussi. C'est alors elle est reprise aussi de l'amour au large. C'est la scène de la course de planche à voile.
Ah bah oui.
Parce que là, le gars est quand même assez habile. Alors déjà, je crois qu'il l'étire encore plus en longueur que dans l'original.
C'est tellement long, mais c'est tellement long.
Le montage arrive à faire croire que les personnages du film de Mattei sont effectivement en train de regarder la course. C'est quand même plutôt bien fichu. Et il se passe rien, enfin si ce n'est qu'on revoit exactement la scène de l'origine et ça s'étire en longueur.
Ouais.
Mais c'est là encore, c'est un exercice de montage assez remarquable. Hein, on peut pas lui retirer ça.
Non. Et puis on essaye aussi de tirer un peu sur le pathos. On joue la corde sensible. Il y a cette petite fille
qui est en fauteuil roulant,
quand même moi me fait. Alors c'est marrant parce qu'on essaie quand même de tirer un peu l'alarme. En disant, oh, il a pas de chance, sa fille en fauteuil roulant. Moi j'ai quand même un peu l'impression de voir la gamine qui est sous perfusion dans Y a-t-il un pilote dans l'avion. J'arrive pas à rester sérieux quand je vois cette scène. Je me dis à quel moment elle va tomber dans l'eau et on va lui dire bah hey, tu nages pas.
Bah oui. Oui, c'est vrai. Bah alors, vas-y, nage, tu peux lui échapper. Non, mais oui, c'est vrai, tu as raison, ça fait penser à cette petite fille. Et alors, il y a aussi cette scène. Alors, dans les deux films, c'est plutôt drôle, mais puisque dans La Mort au Large, il y a donc un marin qui est un peu le Quint de l'histoire. Bon, il se trouve que ce marin meurt sous l'eau. Bon.
Mm.
Et donc, dans La Mort au Large, le héros finit par récupérer son corps, le requin mange le corps, et donc le cadavre finit par se faire happer dans la gueule du requin, et comme il a une ceinture d'explosifs autour de lui, le héros se dit, bon, bah donc dans La Mort au Large, je tire sur la ceinture d'explosifs et je fais péter le requin et le cadavre de mon pote. Donc, ça fait penser à la scène de fin
oui,
de Jaws,
bien sûr.
Tout en faisant penser à celle dans La Mer 3, puisque c'est le même, le gars se fait happer par le truc, et donc, Mattei reprend cette scène à la fin de Cruel Jaws, mais dans une version un peu plus longue. Il a dû trouver des rushs que l'autre avait. Et donc, là aussi, ça s'étire en longueur. Et on voit à quel point c'est à la fois un faux requin et un mannequin dans la bouche.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, on voit cette espèce de mannequin sans forme là, se faire bouffer. C'est juste risible.
Mais ça tient pas à la longueur, ce genre de scène. De toute façon, quand t'as pas les moyens, il faut pas faire ça.
Ah, c'est assez. Mais donc, du coup, c'est drôle. C'est très, très drôle. Et donc, c'est même malaisant de voir ce type se faire bouffer progressivement, ce mannequin se faire bouffer progressivement par cette espèce de gros requin en plastique. Voilà, ça vaut son pesant d'or de regarder cette scène.
Voilà, et puis on a quand même des citations mythiques, hein, donc vous avez juste avant la scène pompée d'hélicoptère où là, là où effectivement Roy Scheider disait il va falloir un bateau plus gros, regardez ce qu'on a maintenant, voilà, on s'en prive pas, hein, on adapte.
Voilà, quel bel hommage.
Voilà, bah bien sûr. Et puis, vous avez aussi la réunion, parce que là aussi, hein, comme dans le 1, il y a une réunion à la mairie. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire pour aller chercher le bestiau, là? Comment on va le chasser, machin? Et t'as quelqu'un qui vient t'expliquer que ce requin est un maniaque. Écoutez-moi ça.
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque. Il attaque, là. Et quand il en est au ventre, c'est mal barré. Vous êtes toujours vivant quand il commence à vous manger. Maintenant, vous aurez peut-être plus de respect pour lui.
Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour probablement de ce film. Enfin, peut-on appeler ça un film? Je ne sais pas trop, de cet exercice de montage. En tous les cas, lui aussi, vous pouvez le trouver sur YouTube.
Ouais, et on s'est bien marré en le regardant. Enfin, en tout cas, moi, il m'a beaucoup plu.
Regardez les deux, quoi. Regardez celui-ci et regardez La Mort au Large, ou à l'inverse. Ouais. Et vous verrez à quel point le deuxième repompe tout du premier, qui lui-même pompe l'histoire sur les dents de la mer. Même si le premier, il a le mérite de tourner les salles lui-même.
C'est intéressant, c'est une espèce de mise en abîme du genre qui te prouve bien que la pompe de la pompe, ça finit par ne plus rien donner du tout.
Ah bah ça finit dans les abîmes. C'est
génial.
Le dire, on pourra pas descendre plus bas. Ouais. Voilà. Donc
qu'est-ce qu'on peut dire? On est hyper frustré. De toute façon, on aurait pu faire à peu près 4 heures de plus.
Ah, hein, oui, facilement.
Bon, après, on on aurait perdu notre latin avec tous ces requins, on se serait emmêlé les pinceaux, on emmêlé les nageoires, on emmêlé les ailerons, mais c'est vrai qu'on est hyper frustré. Il y avait, il y a eu des renoncements douloureux, les 47 Meters Down, le Jaws 2, où on aurait pu parler, Peur Bleue, qu'on aurait pu développer plus que ça. Voilà, c'est comme ça, on a fait un choix. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, peut-être que vous nous direz, mais vous êtes fous, vous avez laissé passer des monuments. Dites-nous tout ça, de toute façon, sur Instagram, sur Facebook.
Et puis, vous savez, il est presque certain qu'un jour on fera un deuxième épisode sur les requins.
Ah oui,
parce
que
du coup, on a mis de côté tous les films de requins où les requins ne sont pas vraiment très réalistes. Vous voyez, on s'est concentré sur des films où les requins sont des vrais poissons, si je puis dire.
C'est ça, non, mais parce que c'est vrai qu'on s'est vite rendu compte que c'était carrément un sous-genre à part entière, en fait. Les requins à trois têtes, les requins fabriqués, les requins volants, voilà,
les requins fantômes, les requins des neiges, du sable. Et donc, on s'est dit, ceux-là, on va les traiter dans un autre épisode parce que c'est même plus vraiment des requins, c'est des monstres.
Par contre, ça va être chaud de trouver le film culte là-dedans.
Oui, c'est clair. Bah, si Sharknado est le film culte des films de requins monstres, eh ben, je
ça
crois
vous
qu'on
donne,
est pas sorti de l'auberge.
Ça vous donne une bonne idée de ce qui va arriver dans Ridiculte. Hein.
Voilà. Voilà. Et ben, c'est sur ces bonnes paroles s'achève notre épisode sur les requins et baignade interdite. Et on se retrouve très prochainement, Carlito, pour un nouvel épisode du bon,
du culte
et du navrant.
À très vite.
À bientôt.
Salut.